Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Alors, nous sommes aujourd'hui dans un exercice un peu particulier, puisqu'il s'agit d'une conférence débat, ce qui peut paraître bien sûr banal, mais qui entre dans le cadre d'une disposition particulière qui est l'organisation de débats publics autour de la fin de vie, organisation qui a été confiée aux espaces régionaux de réflexion éthique. Voilà pourquoi donc autour de cette table, nous avons souhaité rassembler trois équipes qui soient représentatives de la région, une équipe poitevine, une équipe rochelaise et une équipe charentaise de Ruffec plus exactement. Alors effectivement, vous savez que le président de la République, dans son programme, quand il était candidat, avait inclus un certain nombre de propositions qui touchaient à des questions de société. Parmi ces propositions, l'une d'entre elles concernait la fin de vie et posait la question de savoir s'il fallait compléter les lois actuelles sur la fin de vie par une autre loi qui ouvrirait le droit ou la dépénalisation de l'aide à mourir. Très rapidement, un certain nombre de réflexions lui sont parvenues, disant qu'il était assez difficile que le monde politique s'empare de ces sujets de société sans que les citoyens soient consultés, avec une méthodologie, bien sûr, qu'on avait un peu connue en 2009, au moment de la précédente loi de bioéthique, mais avec ce qui était aussi à la racine même de la mission du Comité national d'éthique, puisque lors de sa création par le président de la République, François Mitterrand, en 1983, il lui avait été confié deux missions. Premièrement, donner un avis sur les grands problèmes de société, mais aussi organiser des réunions publiques. En effet, nous touchons là à des problèmes qui dépassent l'économie, le chômage, le taux de TVA. Nous sommes dans ces sujets de société, et ces sujets de société, faut-il les confier, les déléguer d'emblée aux politiques, ou faut-il que le politique, avant de légiférer, ce qui est évidemment sa fonction, soit informé de ce que pense la société. Le débat éthique sur la fin de vie est un débat extrêmement sensible, puisque nous avons des exemples dans le monde qui nous permettent aujourd'hui de considérer ce sujet avec beaucoup d'attention. Et il y a eu d'abord la mission confiée au professeur Sicard. Cette mission a rendu son rapport en décembre 2012. Mais il était étrange que le Comité consultatif national d'éthique ne fût pas consulté. Donc il l'a été, bien entendu. Et il a travaillé pendant le premier semestre de 2013 sur ce sujet et sur les questions qui étaient posées. Et ces questions, bien sûr, il faut les connaître, car elles constituent l'objet même de la réflexion actuelle, c'est-à-dire celle qui va ou non déboucher sur une nouvelle loi. Comment et dans quelles conditions recueillir et appliquer des directives anticipées émises par une personne en pleine santé ou à l'annonce d'une maladie grave concernant la fin de sa vie? Les directives anticipées. Deuxième question, comment rendre plus dignes les derniers moments d'un patient? Et troisième question, et elle est capitale, selon quelles modalités et conditions strictes permettre à un malade conscient et autonome, atteint d'une maladie grave et incurable, d'être accompagné et assisté dans sa volonté de mettre lui-même un terme à sa vie? Voilà cette dernière question, c'est vraiment la question clé. Le Comité consultatif national d'éthique a rendu un avis au mois de juillet dernier. Et dans cet avis, le Comité national d'éthique a, à l'unanimité, proposé que le droit soit donné à chacun de demander une sédation. Ceci était prévu dans la loi Leonetti pour des souffrances. Mais là, le comité d'éthique a un peu inversé. Il a dit toute personne a le droit de demander une sédation quand elle est à un stade évolué d'une maladie grave. On peut penser que cette demande de sédation relève, bien entendu, d'une souffrance. Sinon, on ne voit pas pourquoi cette demande serait formulée. Mais à la question de savoir s'il fallait légiférer en France sur le suicide médicalement assisté, le Comité national d'éthique a répondu que actuellement il n'y avait pas urgence, qu'il y avait à approfondir la loi Leonetti, et à 32 voix sur 40 voix, le Comité d'éthique a dit non, mais 8 voix ont dit non, il faudrait peut-être ouvrir. Et c'est quand le président du comité, M. Ameisen, a remis ce rapport à M. Hollande, que la décision a été prise d'organiser ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, cette organisation a lieu en deux temps. Premier temps, des états généraux de la bioéthique, organisés par le Comité national d'éthique. Nous pensions à de grands états généraux. En fait, nous avons appris qu'il y aurait 20 à 30 personnes représentatives de la France, désignées par l'IFOP, qui vont plancher 3 week-ends et qui vont rendre un avis le 4e week-end, donc d'ici Noël. Et puis ensuite, il y a les débats publics, comme celui que nous organisons aujourd'hui, mais nous avons déjà eu des cafés éthiques au CHU. Voilà. Donc je voulais quand même camper le sujet pour qu'on sache quels étaient les enjeux. La question, bien sûr, aujourd'hui, n'est pas de dire. Pour nous, là, il faut légiférer ou pas légiférer en se fondant sur des idées générales. Par exemple, dire chacun a le droit de décider de sa mort. Ou on doit à tout prix respecter la vie. Ça, tout a été dit sur ce sujet. Ce sont des idées générales. Elles ont été épuisées. Nous ne sommes pas là pour ça. Bien sûr que si elles veulent s'exprimer, elles s'exprimeront. Mais je veux dire, elles n'ont pas d'intérêt puisqu'elles sont connues. Non, ce qui est important, c'est de partir de situations concrètes. C'est-à-dire à partir de ce qu'on a vécu, dont on a pu entendre parler. Est-ce qu'on peut répondre? Comment on peut répondre? Voilà pourquoi, effectivement, les trois équipes qui sont là vont, en 3 quarts d'heure, nous présenter chacune un cas particulier pour commencer à alimenter notre réflexion. Nous allons entendre ces cas particuliers et ensuite, ce sera le moment du débat. Soit à propos de ces cas, demander des questions complémentaires, voir ce qui a été fait, ce qui aurait pu être fait, soit à propos d'autres cas que vous avez une question précise à poser. Nous avons aussi remis à chacun des papiers, il ne faut pas hésiter à y mettre ce que vous voulez dessus, soit des questions, soit un sentiment, une idée. Nous sommes preneurs de tout parce que, bien entendu, nous devrons faire la synthèse de ces débats pour les faire remonter au Comité consultatif national d'éthique, et toutes les régions de France ont reçu cette mission. Donc, évidemment, nous ne sommes qu'une voix, mais la démocratie est ainsi faite. Il faut que nous exprimions, pas pour dire aux députés ce qu'il faut faire, mais pour dire, voilà, on a rencontré ça, voilà. Exemple, un malade conscient et autonome. Et s'il n'est pas conscient? Est-ce qu'il n'est pas autonome? Voilà. C'est vraiment de la complexité dont il s'agit. Ce n'est pas de l'idéologie. Tout a été dit sur le plan, hein. On peut avoir de grandes idées, de grandes références, ben très bien. Mais ceci n'avancera à rien. Voilà. Mais bon, chacun sera libre de sa parole, bien entendu. Donc, je vais commencer par donner la parole au docteur Géraldine de Montgazon, qui est venue avec le docteur Dorothée Lacroix. Et à La Rochelle, ces deux médecins s'occupent de douleurs, de soins palliatifs avec une orientation aussi particulière dans l'insuffisance rénale et dans le traitement par rein artificiel. Alors, si un malade demande d'arrêter un traitement par rein artificiel. Géraldine Dorothée, c'est à vous. Merci.
Alors, nous avons choisi de vous présenter une histoire relevant de cette spécialité, particulièrement parce que la loi Leonetti nous permet à présent de mettre une limite aux traitements qui sont dispensés aux malades. Et dans cette spécialité, ce qui est particulièrement difficile, c'est qu'on ne peut pas s'illusionner sur le fait que lorsqu'on arrête une dialyse, puisque c'est une suppléance vitale, eh bien, on induit la mort du malade. Et donc, c'est une spécialité dans laquelle c'est une décision qui est particulièrement difficile à prendre. Donc, je vais laisser la parole à Dorothée qui va vous raconter cette histoire.
L'insuffisance rénale chronique terminale est une maladie grave irréversible. Elle nécessite un traitement qui permettra de suppléer à la fonction rénale défaillante, appelée hémodialyse. Pour être efficace, le traitement par dialyse doit être effectué régulièrement, généralement 3 séances de 4 heures en moyenne, en structure hospitalière ou en centre de soins. En effet, si la dose de dialyse reçue par semaine n'est pas suffisante, ceci n'est pas compatible avec une qualité de vie acceptable et des complications parfois létales peuvent survenir. Il s'agit donc d'un traitement lourd, à vie, qui, s'il n'est pas effectué correctement, peut mettre en jeu la vie du patient. Compte tenu de ces éléments, tous les patients ne sont pas éligibles à la dialyse, notamment ceux qui ne peuvent pas en accepter les contraintes. Classiquement, la démence est une contre-indication, ou d'ailleurs toute situation où le patient ne peut rester allongé pendant 4 heures pour recevoir son traitement. Nous présentons ici le cas d'un patient de 70 ans, suivi depuis 2009 dans le service de néphrologie, pour lequel la dialyse est débutée en 2011. Il s'agit d'un patient atteint de troubles du langage, expliqué par une maladie neurodégénérative diagnostiquée en 2000, sans syndrome démentiel associé en 2011, c'est-à-dire sans trouble du comportement, et suivi depuis 2009 pour une insuffisance rénale chronique. La dégradation progressive et inéluctable de la fonction rénale conduit à préparer le patient en vue d'une épuration extra-rénale, traitement qui est finalement débuté en septembre 2011. Ce traitement est proposé compte tenu d'une évaluation cognitive stable, de l'absence de comorbidité majeure et d'une qualité de vie maintenue. C'est un patient qui a un environnement familial très présent, une vie sociale riche et des activités culturelles qu'il continue de pouvoir faire. Avant la première séance de dialyse, le patient désigne son épouse comme personne de confiance. En octobre 2011, le patient est hospitalisé pour chute à domicile. Il présente des troubles du comportement avec fugue au moment du branchement en dialyse. Son épouse ne rapporte pas de difficultés à domicile et la communication avec le patient est possible. À partir de février 2012, on constate une aggravation des troubles du comportement pendant les séances de dialyse avec un arrachage intempestif des aiguilles et des épisodes de chute à domicile. En novembre 2012, les difficultés croissantes rencontrées par l'équipe font craindre un inconfort majeur pendant les séances. La communication verbale n'étant plus adaptée, un entretien avec son épouse est sollicité. Ces problèmes sont expliqués à son épouse. Cette dernière décrit un patient qui continue à sortir avec maintien de relations sociales et d'une qualité de vie. La description est donc discordante avec le vécu en dialyse. Le traitement est poursuivi. En juin 2013, l'état général du patient se dégradant, son épouse contacte l'équipe de néphrologie pour un entretien. Elle admet ses difficultés à s'occuper de son mari, tout en insistant pour le garder à domicile. La situation est telle qu'elle considère les séances de dialyse comme un moment de repos pour elle dans la semaine. L'hypothèse d'un placement en institution est évoquée. Le risque que constitue la poursuite du traitement est présenté pour la première fois à l'épouse. En effet, le patient se met en danger durant les séances, en arrachant les aiguilles et en s'agitant. Une diminution du nombre de séances de dialyse à 2 par semaine est proposée, ce que son épouse accepte en juillet 2013, moment où un accueil de jour en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes est mis en place. Mi-juillet 2013, malgré la diminution du nombre de séances, le comportement du patient en dialyse s'aggrave et renvoie à un inconfort permanent. Il a une attitude prostrée et refuse de communiquer. Un nouvel entretien est donc effectué avec son épouse. Le bénéfice attendu des dialyses est réévalué en termes de qualité de vie. Son épouse reconnaît que le soin paraît disproportionné et contribue à une survie plutôt qu'à une qualité de vie. L'arrêt des dialyses étant envisagé, nous sommes sollicités pour mettre en place des soins de confort et participer à cette décision. L'épouse exprime son souhait d'accompagner son mari à domicile. Au vu des besoins, nous décidons de mettre en place une hospitalisation à domicile qui paraît à même d'y répondre. Le domicile est médicalisé, un soutien psychologique apporté à l'épouse, des auxiliaires de vie mis en place par l'assistante sociale et le suivi organisé en collaboration avec le médecin traitant. Ce dernier est inclus dans le projet thérapeutique et partage la décision d'arrêt de la dialyse. Le patient décède finalement paisiblement, mi-septembre 2013, une semaine après la dernière dialyse. L'épouse est toujours suivie par la psychologue de l'HAD.
Alors pour cette situation, on a eu beaucoup de chance. On a eu beaucoup de chance parce que les néphrologues ont pensé à demander à ce patient de désigner la personne de confiance. Un des piliers de la loi Leonetti est justement la désignation de cette personne de confiance. Et la plupart du temps, lorsqu'on rencontre des patients qui ont des gros troubles cognitifs, celle-ci n'a pas été désignée auparavant. Bien que cette disposition existe depuis la loi de 2002 et qu'elle n'est pas du tout spécifique de la loi Leonetti qui en a juste resitué le rôle dans la situation de fin de vie. C'est quelque chose de très important parce que moi j'aimerais inviter les médecins traitants et les patients à désigner leur personne de confiance auprès des médecins traitants parce qu'on se retrouve souvent très en difficulté à l'hôpital avec des patients non communicants pour avoir une personne qui sera le reflet, qui sera l'interlocuteur des médecins pour donner son avis sur ce que le patient aurait souhaité qu'on choisisse pour lui. La deuxième chose dans ce cas clinique, c'est que vous remarquerez qu'il y a un très long temps entre le moment où on s'aperçoit que les dialyses ne sont plus vraiment bénéfiques pour ce patient et que la décision peut être prise, et le moment où sa femme reconnaît que c'est qu'on est dans un soin disproportionné. Et il faut prendre en compte le processus psychique qui va amener des patients et surtout leur entourage à se rendre compte de cette dimension-là et que ce processus psychique dans lequel on doit les accompagner peut être long.
Merci beaucoup. Voilà, nous allons donc maintenant passer au deuxième cas. Ce sera un cas surtout hospitalier et je donne donc la parole à l'équipe docteur Laurent Montaz avec Catherine Boisseau, cadre de santé, et Nadine Poupin, infirmière.
Alors nous avons choisi de vous présenter une situation qui en apparence est extrêmement simple. En apparence. Et ce qui va être intéressant de nous questionner, c'est comment cette situation, en fin de compte, a-t-elle été simplifiée? Est-ce que c'est notre compétence? Bon, c'est plutôt flatteur. Oui, on peut dire ça, d'accord. Ou, et ce qui me paraît le plus logique, est-ce que la loi Leonetti nous aide? Comment nous aide-t-elle? Qu'est-ce qu'elle nous a apporté? Alors, on a choisi un cas et on l'a décortiqué a posteriori de façon à voir ce que l'on pouvait mettre dans cette prise en charge en lien avec la loi.
Alors, nous allons vous parler de Monsieur P. On l'a appelé Monsieur P. Ce monsieur est mécanicien dans la Marine nationale. Ça peut paraître un détail, mais vous verrez dans la suite pourquoi c'est important. Il est divorcé, il n'a pas d'enfant. Il est suivi à Toulon depuis début 2010, depuis la découverte de son cancer ORL qui a été traité par chirurgie et par radiothérapie. Depuis la fin 2010, il vit chez ses parents à Parthenay, donc dans la région, puisqu'à ce moment-là, on l'a informé d'une récidive de sa maladie. Il est hospitalisé dans le service d'ORL du CHU en janvier 2011 pour la poursuite évolutive de sa maladie. Et à ce moment-là, ce patient va subir une laryngectomie totale. Donc il va avoir une trachéotomie, en même temps une glossectomie totale, c'est-à-dire qu'on va lui retirer la langue et bien sûr lui faire en même temps une gastrostomie pour qu'il puisse être alimenté. Il ne veut donc plus ni manger, ni parler, ni boire. L'équipe mobile est appelée fin mars par le service d'ORL pour les aider à gérer des symptômes difficiles. Il a un état général de plus en plus précaire et on découvre la présence d'un écoulement au niveau de la plaie opératoire. Donc la plaie s'est rouverte et là on est très inquiet pour la suite. Le patient n'a pas encore été informé de la gravité de sa situation et les mots soins palliatifs ne lui ont pas été prononcés clairement quand on nous appelle. Donc l'équipe mobile lui a été proposée plutôt en lui parlant de ses compétences, c'est comme ça que ça lui a été présenté, en soins de support.
Le médecin et l'infirmière de l'équipe mobile découvrent un jeune homme prostré, très douloureux, avec un visage démacié, recroquevillé en position fœtale. Malgré tout, il communique avec plaisir à l'aide d'une ardoise. Son père et sa belle-mère sont présents et décrivent leur fils comme une personne jusque-là battante, mais dans une grande souffrance psychologique depuis l'annonce de la récidive. Son angoisse est majorée depuis l'intervention. Il n'y croit plus. Le lendemain, M. P. se dit soulagé. Il se sent mieux. L'œdème du visage a considérablement diminué. Il nous questionne sur la poursuite de sa prise en charge, sur la suite de sa prise en charge. Il serait même prêt à être réopéré si on lui proposait. Le jour même, son père nous informe du décès de la mère de M. P., décédée d'un cancer. Ils sont désemparés et ne savent ni s'il faut lui dire, ni comment lui annoncer. La décision est prise en concertation avec l'équipe d'ORL. L'annonce du décès sera faite par le père le lendemain en présence de l'équipe mobile. En apprenant la nouvelle, il reste très digne, exprime le souhait de se rendre aux obsèques. Une autorisation de sortie est donc accordée par le médecin d'ORL. Le jour des funérailles, il refuse le fauteuil roulant qui est proposé par l'équipe soignante.
Malgré l'horreur de la situation, on voit bien que cette intervention, la perte de sa maman, ce patient retrouve petit à petit son autonomie. Le 6 avril, on envisage donc un retour à domicile chez ses parents avec le service d'ORL. Il n'a toujours pas été informé qu'il n'y a plus de traitement curatif possible, donc l'annonce est prévue pour le lendemain. Et à ce moment-là, après l'annonce, le patient nous écrira « Je m'en doutais, pourquoi a-t-on mis aussi longtemps à me le dire ?» Il quittera donc le service le 11 avril. Il sera malheureusement réhospitalisé 4 jours plus tard. Donc l'équipe mobile est à nouveau sollicitée. Les douleurs à ce moment-là sont décrites par le patient comme insupportables. Tous les symptômes sont majorés et l'aggravation locale au niveau de la plaie l'amène à nous écrire « Je suis en train de pourrir de l'intérieur ». Cette personne va également exprimer à ce moment-là ses difficultés à l'idée de rentrer vivre chez ses parents. C'est-à-dire qu'il nous dit que l'angoisse de ses parents l'angoisse, le fait qu'il soit surprotecteur l'étouffe. Et à la suite de cette discussion, on lui propose un transfert à l'unité de soins palliatifs.
À son arrivée à l'unité de soins palliatifs, vers le 18 avril, la douleur est contrôlée. Il l'évalue à 2. Il communique facilement par écrit. Je n'ai pas d'inquiétude, je me suis préparée au pire depuis plus d'un an. Il pose des questions. Est-ce qu'on pourrait me faire des scanners tous les 3 mois pour savoir où en est ma maladie ? Il s'interroge aussi sur la poursuite des antibiotiques. Il nous demande si les antibiotiques seront poursuivis. Il reste autonome, il s'aspire seul, il gère son alimentation artificielle, il fait ses soins seul et passe beaucoup de temps dehors, assis sur le banc. Il aime être seul, profiter de la nature, fumer une cigarette, boire du café. Monsieur P n'apprécie pas trop les médicaments, il souhaite rester vigilant et il écrit qu'il n'aime pas se sentir dans le gaz. Les traitements sont réadaptés en fonction de ce qu'il exprime. La suite du séjour est émaillée de périodes douloureuses, de saignements épisodiques de faible importance, mais l'aggravation locale se poursuit. Réouverture de la plaie, fistulisation. Cependant, M. P. exprime son désir de sortir de l'hôpital. Il n'ose pas dire à ses parents qu'il aimerait prendre un studio et non rentrer chez eux. L'équipe rencontre alors les parents et encourage le patient à s'exprimer. Malgré leur inquiétude, ils comprennent la situation et acceptent cette idée. L'assistante sociale du service se présente propose de l'aider dans ses démarches de recherche. Il s'investit dans ce projet, fait des recherches sur Internet, demande une autorisation de sortie pour aller visiter un appartement avec son frère, qui est la personne de confiance.
À la suite d'une nouvelle phase d'aggravation, avec encore saignement, agitation nocturne, on constate que le patient s'isole. Il passe la plus grande partie de son temps dans le noir, dans sa chambre. Il semble résigné, mais il continue à vouloir prendre en charge l'ensemble de ses soins. Il met un point d'honneur à tout faire lui-même. Il nous dit être rassuré d'être à l'hôpital, mais il a en même temps, comme on lui parle de cet appartement, l'impression qu'on veut le pousser dehors. Donc on va à ce moment-là, en équipe, réfléchir et décider avec son accord d'abandonner le projet de sortie et donc ce projet d'appartement dans lequel il s'était investi. Son état se stabilise et il nous fait part à nouveau de son espoir d'être réopéré et en même temps de ses inquiétudes. Une fibroscopie est réalisée le 14 mai à sa demande. Et puis, à la suite de cet examen, il nous exprime à ce moment-là sa difficulté à poser des questions au médecin d'ORL, hein, puisqu'on y revient, on lui demande s'il a pu poser les questions qui l'inquiétaient, et on se rend compte qu'il n'a pas posé de questions. Alors, est-ce qu'il a peur de la réponse? Est-ce qu'il y a eu une perte de confiance? On ne sait pas trop. Par contre, il nous questionne quant aux complications éventuelles et aux conditions de sa fin de vie, aux circonstances, comment est-ce que je vais mourir, qu'est-ce qui va se passer? Donc, les explications lui sont données. Le médecin, à ce moment-là, aborde avec lui la possibilité d'une sédation si les choses devenaient trop difficiles. On lui explique, en cas de complications majeures, qu'on pourrait l'endormir. Et on lui propose, à ce moment-là, de rédiger ses directives anticipées. Donc, il se dit rassuré. Et comme il est rassuré, il nous redemande une permission de sortie de 48 heures pour le lendemain. Et effectivement, le 21 mai, il sort avec son frère qui lui a organisé une partie de pêche. Malheureusement, il a une nouvelle hémorragie. Ça va entraîner un retour le lendemain soir avec le SAMU. À son arrivée, il ne saigne plus. Son état est stable. Donc, tous les traitements nécessaires sont mis en place, notamment un traitement anxiolytique à faible dose, débuté avec son accord. Le matériel nécessaire est mis dans sa chambre et les prescriptions anticipées sont réajustées.
Dès le lendemain matin, il demande que le traitement soit diminué. Il n'a pas peur et veut rester vigilant. Il refuse d'être endormi malgré la persistance d'un saignement de faible abondance. L'après-midi, il saigne à nouveau. Les douleurs réapparaissent, le traitement antalgique est réajusté, mais le patient réitère son refus d'être endormi. Il aborde lui-même la question de l'intérêt d'une transfusion. Une réunion collégiale est alors organisée. Devant la précarité de l'état du patient et le peu de bénéfices d'une éventuelle transfusion, il est décidé d'attendre 24 heures afin de faire un bilan sanguin. Le patient est informé et donne son accord. Le soir même, il arrache sa sonde gastrique, s'agite, une sonde est reposée à sa demande. Il accepte une augmentation des traitements anxiolytiques pour la nuit, mais refuse toujours d'être sédaté. Son état se stabilise, il est calme, il renouvelle avec insistance son désir de poursuivre la nutrition. Le bilan sanguin est réalisé comme prévu le lendemain et montre bien sûr une anémie sévère. Le patient en est informé, mais exprime spontanément son refus de transfusion. Vers 16 heures, il sonne. L'infirmière constate qu'il saigne abondamment, mais qu'il est très calme. L'équipe lui prodigue les soins nécessaires et reste à son chevet. Il refuse toujours d'être sédaté, puis s'agite. Nous comprenons alors qu'il veut écrire. Pas avant mes parents. Ses proches sont prévenus par téléphone. Les soignants se relaient jusqu'à l'arrivée des parents à 18h30. À leur arrivée, il est calme, non douloureux, et il réagit à leur présence. Il décède sereinement, entouré de ses parents, vers 21h30.
Le souvenir qu'on a de ce patient, pour nous, il a su rester lui-même jusqu'au bout. Il était acteur de sa vie, authentique et sans complaisance dans les choix qu'il nous exprimait. Ce qui nous venait vraiment à l'esprit et ce qui nous vient encore à l'esprit quand on pense à lui, c'est qu'il est mort dans la dignité. Il est mort dans la dignité, droit dans ses bottes. Et la lecture de la lettre de remerciement qu'il avait écrite sans qu'on le sache pendant son hospitalisation nous a laissé sans voix. Alors je vous propose de la lire. Donc, elle s'intitule « Boîte postale, le banc sous l'arbre ». Jaillissant des flots où j'ai tant navigué, Pégase m'a emporté dans un ailleurs de liberté où la souffrance n'existe plus. De cet univers, je vous adresse à tous et à toutes ma reconnaissance et ma gratitude pour vos compétences, dévouement et gentillesse dans l'aide et le soutien que vous m'avez apporté. Et de tout mon cœur, je vous remercie pour moi-même, mais aussi pour mes proches.
Rappelez-vous, au début, je vous ai dit que c'était une situation simple. Maintenant, je vais vous employer un autre mot, c'est une situation courante, mais abominable. Puisque, à travers les mots qui ont été faits et pris par Nadine et Catherine, il faut bien imaginer cet homme défiguré, une plaie énorme, de la douleur, de la souffrance physique, etc., et psychique. Et pourtant, il y a, comme dans beaucoup de cas dans ce cadre-là, on pense toujours qu'on ne fait pas assez, qu'on va être en échec, comment cette souffrance, etc. Mais lui, il n'a pas demandé à aller plus loin. Il ne nous a pas dit à un moment, votre loi, elle est insuffisante. Et pourtant, on avait tout le terroir, là, tout le terrain pour ça. Alors, quand Nadine et Catherine ont choisi ce cas, c'est vrai qu'il avait sa conscience, il pouvait décider, etc. Ce qu'il faut voir de l'autre côté de l'iceberg, c'est tout le questionnement, effectivement, qu'il y a eu à chaque fois qu'on faisait quelque chose au niveau de la souffrance. On a été d'accord pour le suivre, pour reculer, dans ses paradoxes, dans ses volontés, dans ses choix, etc. Et puis, on s'est dit, lorsque le choix a été fait, on a fait une relecture en disant, est-ce que effectivement c'est nous qui avons réussi, mais la loi là-dedans, qu'est-ce qu'elle nous dit, qu'est-ce qu'on en a fait? Eh bien, cette loi, par l'équipe, elle a été comme digérée. Et donc, du coup, le questionnement, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette loi? Vous le savez tous, probablement, respect de la volonté du patient. Au fait, en relisant ce cas a posteriori, on en a respecté, on a fait ses allers-retours avec lui. On a essayé de la dignité du patient, effectivement. Alors, il s'aspirait dans les... etc. Il en mettait partout, etc. Ok, eh bien, on ne lui disait pas non, ça ne va pas, etc. On a respecté tout ça, on a respecté sa dignité. C'est-à-dire qu'on l'a suivi pas à pas. La loi, elle nous dit, vous devez faire de la collégialité, vous devez interpeller les personnes de confiance, vous devez écrire des directives anticipées. Eh bien oui, ça a été fait par l'équipe. Et on s'aperçoit que du coup, cette loi qui est très théorique, comme ça en apparence, quand on la met sur le terrain, elle nous aide énormément, énormément. Et dans des situations aussi, et là je vais faire le tour de la boucle, aussi complexes que ça, on arrive effectivement à avancer pas à pas avec ces patients.
Dans les souhaits qui ont été émis aussi bien par la mission SICAR que par le Comité consultatif national d'éthique, il a été mis l'accent sur l'importance de promouvoir aussi les soins palliatifs à domicile. Nous vivons en France un paradoxe qui est que la majorité des Français souhaiteraient mourir chez eux, alors qu'une grande partie d'entre eux décède en institution. Aujourd'hui, le développement des soins palliatifs à domicile est un objectif clairement affirmé. C'est un objectif qui n'est pas technique, qui est avant tout éthique. Le docteur Denis Marcel Venot et madame Marie Lumeau vont nous parler d'un accompagnement à domicile en Charente.
Bonsoir. Je vais paraphraser mon collègue de Poitiers en vous annonçant que nous aussi, nous avons eu une approche tout à fait simpliste. Alors, pas de prime abord, parce qu'on a très facilement résisté à la tentation de vous présenter, de céder un petit peu à l'affaire médiatisée du moment, la grande question nationale sur la fin de vie, la demande de mort anticipée. Il nous a été facile de résister à la tentation d'évoquer ce type de situation, puisque à domicile en tout cas, et ça vaut d'ailleurs pour les autres secteurs, nous nous sommes confrontés qu'exceptionnellement à ce type de demande. Donc on a été en effet tout à fait simpliste. On a tout simplement souhaité vous rapporter ce qui représente notre préoccupation majoritaire. Alors peut-être pas numérique, enfin statistiquement, quoique, mais en tout cas, ce qui nous perturbe le plus dans notre exercice, notre mission donc d'accompagnement. Je ne vais pas vous en dire plus sur ce qu'est donc cette affaire la plus perturbatrice. J'espère que l'exemple que ma collègue va vous présenter en est emblématique, en est révélateur. Mais par contre, je vais tâcher de vous proposer d'être bien attentif, puisqu'en fait, au bout, nous sommes arrivés à nous autoriser donc une proposition d'évolution législative et qui n'est pas du tout celle. Donc en cours actuellement, enfin espéré actuellement dans notre pays, qui est d'une toute autre teneur, et donc je ne déflore pas plus le sujet qui nous amène vers vous, et je laisse ma collègue vous présenter cette situation.
Bonsoir. Donc je vais commencer par en revenant sur la particularité de notre équipe, qui, comme les trois équipes de Charente et beaucoup d'équipes mobiles en France, intervient au domicile du patient. La caractéristique essentielle de cette configuration porte sur la multiplicité des intervenants au domicile du patient. Dans ce contexte, quelles difficultés rencontrons-nous et sommes-nous vraiment confrontés à des problématiques spécifiques ? Comme en secteur hospitalier, nous devons en fait particulièrement affronter les difficultés liées à un défaut de réflexion pluridisciplinaire, notamment sur le questionnement en lien avec les bénéfices-risques des traitements. Un accompagnement nous semble avoir particulièrement illustré ce problème. Madame P a 57 ans. Elle est atteinte d'un cancer pulmonaire neuroendocrine à petites cellules d'emblée métastatique au niveau cérébral, hépatique et médiastinal. Cette personne vit à son domicile avec son compagnon ainsi que les deux filles de celui-ci, âgées de 15 ans et 17 ans, dans un contexte socio-économique précaire. Elle a des relations conflictuelles et compliquées avec les membres de sa famille. Son compagnon est peu investi du fait d'une histoire de vie difficile, notamment une accumulation de décès dans sa famille. Et de plus, il souffre de troubles neurologiques qui vont évoluer de façon péjorative au cours de cette prise en soins. Notre équipe est sollicitée par l'équipe HAD, hospitalisation à domicile, alors que Madame P entame une deuxième ligne de chimiothérapie. Sa pathologie a été diagnostiquée un an plus tôt. Du fait d'une efficacité de celle-ci, une troisième ligne de chimiothérapie est proposée à la patiente. Au cours des premières visites, elle est très expansive. Elle a besoin qu'on reconnaisse sa souffrance. Néanmoins, elle ne fera jamais appel à notre équipe ultérieurement. Nous maintenons un lien par contact téléphonique. Dans les suites, elle est très asthénique, anorexique. Elle souffre de nausées, de vomissements, le tout entraînant une perte rapide de poids. Cette altération de l'état général se prolonge durablement. 3 mois s'écoulent. Notre équipe reçoit un appel de l'infirmière coordinatrice de l'hospitalisation à domicile en grande difficulté qui se questionne sur le projet de soins. La patiente est extrêmement fatiguée. Elle ne mange plus du fait des nombreux vomissements et s'hydrate plus ou moins. De plus, elle est seule la journée et refuse toute aide. Elle ne souhaite pas être hospitalisée. L'infirmière se demande si elle ne se laisse pas mourir à la maison. Elle se questionne également sur le sens de la chimiothérapie, sur une éventuelle indication d'alimentation parentérale, d'une hydratation et sur le sens du maintien au domicile. En parallèle, elle interpelle le service d'oncologie où Madame P se rend une fois par semaine, ainsi que le médecin traitant, en difficulté lui aussi, car très peu sollicité par la patiente. Nous nous rendons au domicile de la patiente afin de faire une évaluation de la situation. Madame P présente un ralentissement idéomoteur, responsable d'une négligence globale. Négligence que l'on emploie ici dans le sens neurologique du terme. Elle est plus distanciée, elle se renferme, elle n'aborde ni la maladie, ni la question du devenir. Elle ne remet pas en cause les traitements. Nous nous interrogeons sur les causes de ce ralentissement, autres que les métastases cérébrales. Plusieurs causes sont évoquées. Nous décidons d'interpeller un médecin oncologue qui prône le bénéfice de la chimiothérapie en cours et qui délègue aux professionnels du domicile le questionnement sur le bénéfice d'une éventuelle alimentation intraveineuse. Mais Madame P est-elle compétente pour nous donner son avis sur le projet de soins ? Et le serait-elle plus si elle était moins dénutrie ? De nombreux échanges téléphoniques entre notre équipe, l'équipe d'hospitalisation à domicile, le médecin traitant, puis en accord avec la patiente, nous prenons la décision d'un essai d'alimentation parentérale. Malgré cela, on constate une aggravation progressive de son état avec une évolution vers un syndrome confusionnel quasi permanent. Elle est hospitalisée début juillet pour somnolence importante. Le scanner montre une évolution des localisations cérébrales ainsi qu'une hypertension intracrânienne. Un retour au domicile est envisagé mais semble inconcevable. Elle est transférée sur un lit identifié de soins palliatifs, LISP, dans un hôpital local plus proche de son domicile où elle décédera un mois plus tard. Elle aura bénéficié de sa chimiothérapie jusqu'à sa dernière semaine de vie. En reflet de cette situation, quelle pourrait être notre proposition en cas d'évolution de la législation sur l'accompagnement de la fin de vie? Pourrait-on imaginer qu'une procédure pluriprofessionnelle puisse s'imposer à un médecin dès qu'un groupe de professionnels se questionne sur le bénéfice-risque d'un soin ou d'un traitement, comme il en est pour les limitations d'arrêt de traitement?
Alors pour compléter donc le propos de ma collègue, pour l'expliciter si besoin est, moi j'ai besoin de m'exprimer parce que vraiment c'est quelque chose d'assez fort cette présentation par rapport à notre vécu professionnel, par rapport à nos préoccupations, hein, tout simplement. Il faudrait bien plus que la soirée et bien au-delà pour vous dire, nous, toutes les qualités que l'on trouve à la loi Leonetti, tout le bonheur que l'on a à l'enseigner très très régulièrement. Aux paramédicaux, on rencontre rarement de médecins dans les groupes pourtant conséquents, hein, de personnes qui profitent de ces formations-là. Donc voilà, nous vous disons tout de suite notre adhésion, notre intérêt, notre enthousiasme pour cette évolution législative et ce qu'elle a permis de voir progresser. Pour autant, voilà, nous nous permettons donc une petite lecture critique sur un des éléments de la loi, la question de la définition de l'obstination déraisonnable pour ce qui est du caractère disproportionné des soins. Le corps médical n'a pas trop de difficultés pour affronter cette question-là quand il s'agit de statuer sur des soins totalement inutiles. Là, je dirais que l'évidence s'impose. Par contre, pour ce qui est donc de la proportionnalité ou la disproportionnalité des soins, l'affaire est beaucoup plus complexe et nous sommes convaincus, et nous avons, je dirais, presque de bonnes raisons d'être tout à fait convaincus, qu'il faudrait à ces moments-là de l'intelligence plurielle. J'aurais presque envie de dire pluriel, au pluriel, et des regards croisés, hein, des formules bien connues pour affronter cette complexité de dire qu'est-ce qui est disproportionné, qu'est-ce qui ne l'est pas dans la situation qu'on vient de vous relater et qui doit faire écho, hein, chez beaucoup d'entre vous, professionnels ou non, à des situations croisées à titre personnel ou professionnel, proches ou plus ou moins proches. Nous sommes convaincus que la collégialité qui ne s'impose que dans une seule situation, à savoir les décisions de limitation et d'arrêt de traitement chez les patients qui sont en incapacité de s'exprimer. Et c'est un cas tout compte fait pas si fréquent que ça, quoique. Mais curieusement, je dis pas si fréquent que ça, parce qu'en fait, quand le corps médical, quand un médecin, on se pose plus relativement spontanément cette question de la limitation, ma foi, donc c'est déjà une démarche vertueuse, et de lui imposer à ce moment-là de la collégialité, en fait, on lui impose ce qu'il va spontanément développer. Par contre, dans cette affaire de l'obstination déraisonnable très très difficile à évaluer, est-il concevable de laisser un seul médecin donc face à cette complexité? Alors pour paraphraser, je ne sais pas qui, d'ailleurs j'aurais tendance à dire la guerre est quelque chose de trop compliqué pour laisser qu'aux militaires. Ben, je crois ou j'ai la conviction aujourd'hui que la fin de vie est trop complexe pour la laisser au seul médecin, surtout quand ce seul médecin se décline au singulier. C'est-à-dire que quand un seul intervenant a statué sur des affaires aussi délicates, déjà la pluridisciplinarité, donc plusieurs disciplines médicales, serait déjà un garde-fou. Et la fameuse, qui devient de plus en plus d'actualité, pluriprofessionnalité, donc là, pas seulement des médecins, mais des médecins et des paramédicaux, pour complexifier l'affaire, non, pour en accepter la complexité, y faire face et essayer de trouver le moins gris, qui correspond vraiment à la démarche éthique. Voilà un petit peu notre démarche qui conclut, si j'ai bien suivi, les présentations et qui je l'espère, pourrait déjà générer un débat sans négliger les deux présentations antérieures, bien évidemment. Merci de votre attention.
Voilà, nous avons donc entendu ces trois présentations. Pour qu'il n'y ait pas d'équivoque, donc je souhaitais bien préciser que en cas d'obstination déraisonnable, si le malade est conscient, c'est lui seul qui en est juge, n'est-ce pas, au terme de la loi. Et si le malade demande d'arrêter tout traitement, il doit être respecté dans cette volonté, quand bien même le médecin penserait qu'il n'est pas réellement en situation d'obstination déraisonnable. Ça n'empêche pas le dialogue. Par contre, la collégialité n'intervient que si la personne est inconsciente et incapable d'exprimer sa volonté. À ce moment-là, c'est un collège. Et ce n'est pas qu'un collège de médecins, c'est un collège pluridisciplinaire, bien sûr, avec toute l'équipe de soins qui doit réfléchir, en incluant même éventuellement des personnes extérieures. Voilà donc l'état des lieux et ce que pense l'équipe de RUFEC, c'est que, bien sûr, la situation d'une personne consciente pourrait aussi bénéficier d'un regard pluridisciplinaire. Voilà. Voilà donc ces trois cas tous aussi intenses. Et maintenant, le débat est ouvert pour des questions à propos de ces cas ou à propos d'autres questions qui vous viendraient à l'esprit. Il y a un micro qui va circuler. Voilà. Voilà. Madame Le Bihan a un micro et le fera passer volontiers.
Je fais la première pour lancer les... Et je voudrais poser une question à l'équipe de La Rochelle, où vous avez dit, heureusement, le malade, il avait écrit ses directives anticipées, ou bien il avait désigné sa personne de confiance, sa personne de confiance. Et qu'est-ce que vous auriez fait s'il ne l'avait pas désigné?
On aurait été obligé de considérer la famille en entier. Est-ce qu'il aurait été... parce qu'on n'aurait pas pu... désigner une personne comme étant plus ou moins porteur de sa parole. Et ça, c'est quand même toujours beaucoup plus compliqué. Parce que pour que le dialogue avec... moi, je trouve que la loi, elle est assez bien faite parce que cette décision collégiale, elle est médicale. Elle est médicale et paramédicale, elle est soignante. Et elle a pour but de prendre l'avis de la personne de confiance, laquelle personne de confiance est la personne qui semble représenter le plus l'avis qu'aurait le patient s'il était conscient. Alors, ce n'est pas forcément la personne à prévenir, ça ne veut pas dire non plus qu'on n'informe pas ou qu'on ne s'occupe pas des autres personnes de l'entourage, pas du tout, mais c'est la personne qui va servir d'interlocuteur et dont on va prendre l'avis pour... prendre la décision qui nous paraît la meilleure. Et dans cette décision collégiale, elle reste médicale et paramédicale pour ne pas faire peser sur cette personne de confiance une responsabilité dans et le poids de cette décision, qui peut être extrêmement difficile à porter. Donc voilà. Et évidemment, c'est déjà très très complexe de décider d'avoir ces regards différents. Eh bien, je pense que s'il y a des grosses familles, ça peut être assez compliqué. Ça. Et on risque de se tromper d'enjeu autour du malade.
Donc, il y a un arrêt des soins. J'ai deux cas aujourd'hui autour de moi. Je n'avais jamais eu ça.
Et j'ai été voir sur Internet, c'est-à-dire que avec la loi Leonetti, vous êtes autorisés, vous les professionnels, à ne plus alimenter le malade, voire hydrater au minimum. Et ça se dénonçait la semaine dernière sur Canal+. Donc je voudrais savoir, parce que ça, ça a été... J'ai du mal à parler en société, mais c'est assez perturbant, assez perturbant. Bon, moi, je sais, ça a été mon frère, handicapé, trisomique, 60 ans, dont je m'occupe. Donc je suis intervenue. Il était condamné à mort parce qu'il n'était plus alimenté depuis 4 jours quand je l'ai su. Et donc j'ai demandé, est-ce qu'on lui redonne au moins... des crèmes, des choses, en disant son plaisir, c'est la bouffe, vous ne faites pas mourir de faim. Et mon frère va très bien. Il est là dans la région. Et voilà, c'est un trisomique de 60 ans. Ça représente 90 ans pour lui, à peu près. Mais bien. Alors qu'au bout des 4 jours, lorsque je l'ai vu, parce que j'avais dû m'absenter sur Paris... il était pratiquement dans le coma, il n'ouvrait plus les yeux et autres, et là il va très bien. Et ça, c'est une question. Je suis allée voir ce matin encore, parce que je venais ce soir pour essayer de comprendre cette loi, où j'ai vu l'exemple d'une directrice d'une clinique à Cambrai qui, elle, refusait de rentrer dans ce jeu-là, ne sachant pas la souffrance du patient. Et ça, ça me pose, ça fait 2 mois, et je n'avais jamais entendu parler de ça. Et on a un copain sur Paris qui est en phase finale d'un cancer. Pareil, on ne l'alimente plus depuis 3 semaines à peu près. Voilà. Donc, je voudrais bien comprendre, parce que vous prenez la loi Leonetti, mais moi, j'ai été voir, et là, le ne plus alimenter... en fait, on fait crever quelqu'un, quoi. Je suis désolée de ce terme, mais et je crois qu'il est adéquat, quoi.
C'est effectivement le cas de votre... Ouais.
On va vous... Qui veut répondre parmi les 3 médecins ou l'équipe de soins palliatifs? Allez-y. Laurent Montaz, vous voulez y aller?
Alors, tout d'abord, madame, je vous ai bien entendu et je vous remercie d'avoir pris la parole alors que ce n'est peut-être pas évident de le faire. Et vraiment, je vous remercie beaucoup. C'est une excellente question, excellente remarque, je pense, que ce que vous venez de nous dire et de témoigner. Il faut savoir que dans beaucoup de cas, on peut effectivement se poser la question de l'intérêt d'une alimentation, voire d'une hydratation. Quelquefois, il peut s'agir d'un arrêt transitoire pour éviter certaines complications d'encombrement pulmonaire ou d'encombrement beaucoup plus important qui peuvent nuire à la qualité de vie et voire à la vie en elle-même d'un patient. Deuxièmement, dans d'autres cas, il peut s'agir effectivement d'éviter des souffrances. On ne va pas faire un arrêt transitoire, mais on va le faire dans le but d'éviter ces souffrances. Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que premièrement, cette décision, elle est faite dans un objectif de diminuer une souffrance. La deuxième chose, et c'est peut-être là où il manque des éléments, je crois qu'on ne peut pas prendre, qu'il ne faut pas, que la loi, qu'est-ce qu'elle nous dit la loi? Elle dit, lorsque vous avez une telle décision à prendre, vous demandez à la personne si elle peut s'exprimer. Là, d'après ce que j'ai pu percevoir de cette situation douloureuse, c'est qu'au moment où vous l'avez vécu, c'est que votre frère peut-être n'était pas en capacité d'exprimer ce qu'il souhaitait ou pas. Que dit la loi? C'est ce que disait ma collègue il y a un instant. Elle dit, vous allez chercher la personne de confiance, vous allez lui demander ce qu'elle en pense, etc. En l'occurrence, peut-être, la personne de confiance, votre frère ne l'avait-elle pas désignée? Et donc, que dit la loi? Si vous n'avez pas de personne de confiance, si la personne n'a pas écrit ses directives, ce qui, en l'occurrence, j'ai l'impression, est le cas, eh bien, vous allez voir les proches. Vous allez voir ceux qui connaissent ce patient, avec qui ils ont sans doute, qui les connaissent bien, qui les connaissent depuis longtemps ou pas, mais en tout cas, qui les connaissent avec leur cœur, avec leurs fibres, avec tout ce qu'ils sont. Et là, vous devez tenir compte de leur avis. Alors peut-être que dans ce cas-là, je ne sais pas comment ça s'est passé, hein, eh bien, premièrement, les collègues s'étaient transitoire, c'était une décision transitoire ou pas, je ne sais pas. Est-ce qu'on vous a demandé effectivement ce que vous en pensiez ou pas? Est-ce qu'on a entendu votre argumentation? Quel compromis? Quelle décision a été... Je ne pense pas qu'il faille voir les choses d'une façon, et d'ailleurs c'est pas ce que vous avez dit, binaire, en disant les médecins décident, point barre. Non, j'espère en tout cas qu'il y a effectivement une collégialité entre la famille et les soignants. Je parle des soignants parce que quelquefois cette conversation, cet échange, bien sûr, c'est pas, et vous ne vous faites pas d'illusions, c'est pas un médecin, là encore, qui va être le seul interlocuteur. C'est toute une équipe, souvent, qui vont questionner, qui vont rapporter les mots. Ça va pas être une décision qui va se prendre dans l'instant. C'est quelque chose qui va être remanié, remodelé comme une pâte qu'on va pétrir pour savoir quelle est la bonne décision. Voilà, j'espère avoir répondu à votre questionnement. Et deuxièmement, lorsqu'il existe effectivement quelqu'un qui est atteint, alors ce qui n'était pas le cas, d'après ce que j'ai compris, d'une pathologie très avancée, multimétastasée, admettons, etc., qui a des troubles de déglutition, qui à chaque fois qu'il prend un tout petit peu, eh bien, fait des fausses routes, je crois qu'il faut accompagner les proches. Il faut remettre en question une décision. Et voilà. Et deuxièmement, vous l'avez très bien dit spontanément, l'alimentation plaisir. Je parle sous couvert de mes collègues. Quelquefois, on autorise, mais quand le patient nous demande qu'il veut absolument manger alors qu'il fait des fausses routes tous les jours sur n'importe quel morceau, etc., mais qu'on se dit que l'alimentation, ce n'est pas une bonne chose parce qu'on risque d'avoir des encombrements, mais qu'il nous dit « si, si, moi, j'ai envie de manger encore un petit peu », eh bien, on va l'informer des risques, on informera la famille et on ira dans ce sens pour maintenir ce plaisir. Et comme vous le dites de temps en temps, on a l'heureuse surprise, effectivement, eh bien parce qu'on a écouté l'entourage, etc., eh bien de voir les choses évoluer différemment de ce qu'on avait pu penser avec notre science.
Voilà. J'avais souhaité pour mon frère en disant qu'il ait au moins ce plaisir, et s'il doit faire une fausse route, autant que ce soit avec une cuillère à crème de chocolat que de rien du tout. Parce qu'il a pu être nourri, il allait mourir, donc voilà. Mais c'est vrai, bon, ça faisait 4 jours, et là, je n'étais pas au courant, mais c'est vrai que ça a été respecté, ce qui a été demandé. Mais moi, c'est vrai que quand on n'est pas du métier et autres, c'est choquant de dire on arrête l'alimentation c'est là parce qu'on se dit il est condamné de toute façon, la personne est condamnée. Ce que la compagne de notre ami qui a un cancer sur Paris dit, elle dit de toute façon ça y est, il est condamné, il mange plus, on ne l'alimente plus. Donc c'est quand même ça choque quand même, hein.
Vous avez raison, c'est toujours assez choquant parce qu'il y a la symbolique de nourrir la vie à travers l'alimentation. Mais il faut imaginer, quand on arrive tout à fait en fin de vie de certaines pathologies, il n'y a plus de besoin. Il n'y a plus le besoin de se nourrir. C'est quelque chose qui disparaît quand on arrive dans les phases tout à la fin, et voire même c'est délétère pour la personne. Ça abîme sa peau, ça la rend plus démaciée, plus douloureuse. Et c'est difficile, à un moment, ça demande vraiment un dialogue avec l'entourage pour expliquer ces phénomènes-là qui surviennent dans la toute fin de la vie. Lorsque la...
Faut pas que ce soit un monologue, hein. Ouais.
Mais la fin disparaît, hein. Lorsque cet état-là arrive, la fin disparaît. Si les patients, on est amené à prendre ces décisions pour des patients, c'est parce que leur faim a disparu, parce qu'ils n'ont plus ce besoin. Hein, mais bien sûr, si quelqu'un a faim, il a à manger. Enfin...
Bon.
Pour compléter la réponse, même si elle est déjà, je l'espère, hein, tout à fait explicite, mais il faut qu'on avoue tout simplement, ce sont les grévistes de la faim qui auront beaucoup aidé la médecine à comprendre ces enjeux et à permettre aux médecins de dire en effet, oui, votre proche ne souffre pas de ce que la logique voudrait et de ce que votre cœur vous dit. C'est-à-dire que, mais il est en train de mourir de soif, il est en train de mourir de faim. Eh bien non, il nous faut l'entendre. Voilà, notre physiologie est très complexe et les grévistes de la faim ont pu témoigner dans d'autres circonstances, hein, bien sûr, dans des configurations tout à fait différentes, que la faim et la soif disparaissent extrêmement rapidement. Voilà, c'est à partir de cette expérience-là que les médecins ne s'autorisent aucune privation, et la loi à aucun moment, bien heureusement, n'introduit d'idée de privation. Mais par contre, la loi autorise en effet des limitations, en sachant quand vraiment amener de l'alimentation, de l'hydratation, notamment par des perfusions, pourrait se révéler extrêmement délétère et produire même les souffrances que vous redoutez, et en sachant que ces limitations n'exposent pas ni à la faim ni à la soif. On en a suffisamment la preuve.
Moi, j'avais une question sur les directives anticipées. Déjà, est-ce que vous avez beaucoup de patients qui s'expriment via la possibilité qu'offre la loi Leonetti de rédiger des directives anticipées? Et puis ensuite, pour ceux qui le font, qu'est-ce qu'ils vous disent? Parce qu'une des questions, quand on n'est pas professionnel de santé et qu'on ne connaît pas les différentes étapes d'une fin de vie, c'est moi, j'ai mon idée des choses, mais je ne sais pas comment l'exprimer. Qu'est-ce que c'est que la réanimation? Qu'est-ce que c'est que la trachéotomie? Qu'est-ce que c'est qu'effectivement l'arrêt de la nutrition, de l'hydratation? Qu'est-ce que ça va engendrer, etc.? Quel est le rôle des équipes? Est-ce que vous accompagnez les patients dans la rédaction de directives anticipées ou les familles? Et comment est-ce que vous le faites?
Je pourrais peut-être donner une réponse partielle, hein, qui sera complétée après. Si je prends l'exemple de l'unité d'hospitalisation, je pense que la plupart du temps, on est déjà dans l'information du fait que c'est possible. Ça veut dire que la personne est informée, qu'elle peut les rédiger. Mais je crois que ça met en jeu forcément quelle information il a eue. Pour écrire ce que je ne veux pas, il faut déjà que je puisse savoir ce qui risquerait de m'arriver. Donc c'est très lié... au moment de la maladie où le patient est informé de telle ou telle complication, et puis à l'équipe mobile, mais l'équipe va peut-être compléter, c'est vraiment l'accompagnement sur le long terme, et ça nécessite une anticipation. Et c'est un accompagnement du patient. D'abord l'information, et puis elles sont réajustées au fur et à mesure. Alors ce qu'on constate dans le service d'hospitalisation, c'est que la plupart du temps, quand on l'a expliqué, quand on en a parlé, à la limite, je dirais que les patients hospitalisés à l'unité ne les ont pas rédigés. Le fait d'en avoir parlé, je pense qu'ils ont compris qu'on respecterait leur volonté. Donc c'est deux niveaux différents.
Moi, j'ai la chance de travailler en équipe mobile, mais aussi en service d'hospitalisation à domicile. Et la rédaction des directives anticipées fait... partie quotidienne de mon travail, avec une élaboration de ces directives qui est menée conjointement avec le médecin traitant, qui, je pense, a un rôle très important dans la rédaction, dans l'information du patient et l'accompagnement des familles. Avec l'hospitalisation à domicile, ça permet aussi de diffuser ces directives anticipées, notamment auprès du SAMU, en fait, quand il y a besoin d'un recours la nuit, le week-end, enfin quand les professionnels sont moins joignables. Donc voilà pour mon expérience.
Alors, fâcheuse affaire, hein, que c'est cette question des directives anticipées, parce qu'on pourrait se dire, bon, ben voilà, ça va tout résoudre. Il suffit que chacun, en quittant la salle, on va tous s'appliquer à raconter un petit peu, mais à raconter quoi quand tout va bien, mais même à raconter quoi quand tout va mal. bien complexe. Hein. Donc, dans certaines maladies, notamment neurodégénératives, je pense à une maladie assez effroyable, la sclérose latérale amyotrophique. Et c'est vrai que la pratique des directives anticipées défraie un peu la chronique, parce que la réalité, au travers d'études nationales, montre qu'il y a très très peu de production de directives anticipées. Il y en a d'autant moins que les professionnels n'informent pas, non seulement sur la possibilité, comme vient de relater ma collègue, là, qui par contre s'y emploie, et surtout s'il n'y a pas de guidance, hein, donc, des professionnels sur ce qui menace la personne pour qu'elle puisse statuer par rapport à ces enjeux-là. Mais donc voilà, la sclérose latérale amyotrophique, c'est une maladie effroyable dont le parcours est parfaitement préprogrammé, et à partir de là, il est relativement facile, même si c'est tout à fait terrible, d'expliquer à une personne qui en est atteinte ce qu'il pourrait, même ce qu'il va lui arriver, et à partir de là, les recours possibles. Mais dans les autres situations, et qui sont à mon avis majoritaires, c'est une aventure très très complexe de deviner à l'avance ce que je voudrais, pas demain, mais dans un mois. Dans un mois, qu'est-ce qui se passera? Est-ce que je serai dans le même état d'esprit? Est-ce que je vais prononcer aujourd'hui? Est-ce que les médecins ne risqueraient pas de l'appliquer? Donc moi, j'use un petit peu d'une anecdote, mais qui est authentique, pour à la fois en annonçant bien tout d'abord que je m'emploie, hein, dans mon exercice professionnel à informer et à proposer mon aide à la rédaction, et que de temps en temps je suis convaincu que c'est très aidant. Mais sinon, j'utilise une anecdote authentique, hein, donc d'un service de réanimation respiratoire au CHU de Strasbourg, d'un patient insuffisant respiratoire chronique en situation terminale, qui a déjà été hospitalisé de nombreuses fois pour des épisodes extrêmement critiques, et qui un jour est de nouveau hospitalisé, et puis les médecins sont très très hésitants et pensent que le pronostic est obligatoirement péjoratif. Mais voilà, la réanimation permet à cette personne de survivre à ce nouvel épisode. Et donc le juste avant la sortie, le chef de service et le patron, hein, donc de ce service de réanimation respiratoire, qui raconte l'anecdote, qui en témoigne authentiquement, il dit, écoutez, on a eu drôlement peur, hein, de pas vous sortir de là, hein, c'est ce que ça sous-entendait. Et le patient lui dit, mais moi aussi j'ai eu très très peur que vous ouvriez mon portefeuille et que vous découvriez mes directives anticipées. Alors, qui, vous le devinez, était ne pas faire ce que vous avez entrepris, et que je suis ravi que vous ayez entrepris, alors que je vous aurais, si vous aviez lu. Donc là, moi, je ne veux pas abuser de cette anecdote authentique pour dire, oh là là, c'est n'importe quoi les directives anticipées. C'est pour en démontrer l'énorme complexité. En même temps, moi, je peux témoigner que je me réfère à cette maladie, bien sûr terrible, mais en même temps qui est, je dirais, le contre-exemple, la sclérose, dans une sclérose latérale amyotrophique, où on va perdre et sa motricité, hein, des bras, des jambes, et même pour le langage, et la capacité à déglutir, et ensuite la capacité à respirer, d'établir des directives anticipées se révèle incontestablement, quasi systématiquement, anxiolytique, et donc très très aidant pour la personne et très aidant pour les petits professionnels que nous sommes face aux personnes qui affrontent cette terrible maladie. Donc vous voyez, j'ai deux exemples tout à fait antinomiques, antithétiques, quoi.
J'ai la même expérience en fait que mon confrère, où on retrouve cette ambivalence avec les directives anticipées qu'on a avec tout au long du parcours du patient dans sa vie avec la maladie, où il va osciller entre un espoir et désespoir, et qu'il y a des moments où on peut écrire des choses et à un moment revenir sur ces choses. Et je me souviens d'un patient comme ça qui me disait ces directives anticipées, je les écris, mais enfin, si à la dernière minute je ne suis pas d'accord, j'ai le droit de le dire.
Justement, c'était ma question. Donc, vous dites que vous faites cette démarche assez régulièrement dans votre unité. Je voulais savoir quelle est la fréquence avec laquelle les malades changent d'avis. J'ai la même anecdote qu'à Strasbourg aussi.
La fréquence à laquelle ils changent d'avis pendant le séjour, j'ai envie de dire, c'est trois fois par jour. Voilà, c'est pour ça que c'est si compliqué. Alors, ce qu'on a eu plusieurs fois, c'est des patients qui arrivent avec un petit mot dans leur portefeuille où il y a marqué « je ne veux pas d'acharnement thérapeutique ». Mais ça aussi, c'est tellement subjectif. Est-ce qu'un traitement antibiotique, c'est... Le patient dont on vous parlait, en fait, ce monsieur avait peur qu'on arrête ses antibiotiques. Sa représentation de l'unité, c'est qu'on allait tout arrêter. Et pourtant, il avait compris. Hein, voilà.
Donc c'est très, très complexe. Et puis ce que j'ai envie de dire, c'est que là aussi, l'information, on a quand même à l'unité, je vais me tourner vers Nadine, voir si elle est d'accord, je dirais que 4 sur 5 des patients admis arrivent sans désignation de la personne de confiance, alors qu'ils ont fait au moins 5 ou 6 services avant, parfois. Donc ça veut dire qu'il faudrait peut-être commencer par là. Parce que quand ils arrivent, et je me souviens d'une patiente, je peux t'en souvenir, qu'on avait reçue, une dame qui avait une vie complexe, compliquée, ça ne nous regarde pas, donc elle était démariée, remariée, avec un ami, avec des frères et sœurs, avec des parents. Elle n'était plus en état de les écrire, et quand on demandait aux proches, chacun après l'autre disait « c'est moi la personne de confiance ». Eh bien oui, mais voilà, je pense qu'il y a vraiment... Faut-il changer la loi ? Je crois qu'aujourd'hui, nos concitoyens ne connaissent pas leurs droits. Donc avant de la changer, je pense qu'il y a un énorme travail d'information à faire, ne serait-ce que ça. Les professionnels de santé, je crois que c'est difficile pour eux de parler de la personne de confiance. Chaque fois qu'on en parle dans les équipes, ce n'est pas si simple que ça. Rien que le mot confiance.
Cette loi, elle nous invite. Elle nous invite à faire. Elle ne nous impose pas, mais elle nous fait cheminer avec le patient. Et sur les directives anticipées, eh bien c'est vrai que, effectivement, quand il y a une volonté d'une équipe de les rédiger ou d'aider la personne à les rédiger, elles sont très, très peu faites. Par contre, le fait de se poser à la personne au bon moment, c'est-à-dire il faut attendre que vraiment il y ait cet instant, cette communion avec le patient sur un sujet très délicat, etc., pour dire, mais vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez si un jour, etc. Et quelquefois, j'allais dire, c'est peut-être pas la peine de l'écrire avec le patient lui-même. Déjà, l'information nous suffit, nous, pour ensuite la partager avec l'équipe, sachant très bien que ça peut être mis en question, que ça va être discuté, que dans une semaine, ça sera différent, etc. Ça nous donne un petit... ça nous guide un peu. Les patients nous guident. C'est pas nous qui les guidons, c'est eux qui nous guident.
Oui, bonsoir. Les biens portants changent d'avis. Il est bien évident que dans les souffrances extrêmes, parmi les cas évoqués, que ces gens ont dû changer d'avis sans vous en informer plusieurs fois dans la journée. Alors, il faudrait peut-être, je dis bien peut-être, donner de l'importance à ces directives anticipées. Mais rien que le mot anticipé, moi, me fait un petit peu peur. Et en essayant, je dis bien en essayant, de me mettre à la place des malades qui souffrent l'extrême, je pense que vous le faites probablement parce que vous parlez de collégialité. Je voudrais savoir combien de membres pour vous font la collégialité, à partir de combien, et lorsque ces gens s'en remettent, peut-être. Moi, je pense que je m'en remettrai. Je voudrais bien voir l'équipe et leur donner ma confiance pour me décharger d'un poids qui doit être incommensurable par rapport à l'état de ces gens. Alors, pour moi, si on pouvait trouver une collégialité universelle et idéale, c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait travailler, tout en gardant le fondement de la loi Leonetti, mais perfectionner pour obtenir la confiance.
Voilà. Moi, je voulais simplement dire que la loi Leonetti, elle n'a pas été écrite seule. Elle est écrite dans la lignée de la loi sur les soins palliatifs en 99. Et celle sur le relative aux droits des malades en 2002. Et sur la loi relative aux droits des malades, il y a quelque chose de très important qui s'est passé. Et c'est le fait qu'il a été reconnu dans l'alliance thérapeutique une certaine symétrie entre le soignant et le soigné. Et la base de cette relation entre un soignant et un soigné, c'est bien la confiance. Et dans cette loi, c'est la première fois que dans la loi, le principe de bienfaisance est devenu inférieur au principe d'autonomie et que donc le patient a eu un statut de partenaire et un rééquilibrage de cette relation entre le soignant et le soigné. Donc, si vous voulez, un peu, la loi Leonetti, elle vient compléter quelque chose qui existait déjà, mais dont, là encore, nos concitoyens ont peu conscience et qui est basée sur la confiance.
Bonsoir. Alors, vous vantez les mérites de la loi Leonetti, et je voulais savoir si, dans l'exercice de vos fonctions, vous étiez confronté à ces limites, et si oui, quelles étaient pour vous les limites de la loi Leonetti ?
Alors, Joker, ça me laisse le temps de réfléchir. Alors, est-ce que nous sommes confrontés, alors cette question qui est le thème de notre soirée est délicate, puisque vous voyez, on est trois équipes, on essaye d'apporter des éclairages, mais il est difficile de dire oui, non, parce que c'est aussi délicat vu la multitude des situations. Cette prise en charge, elle va des enfants qui ont quelques mois aux gens très âgés qui ont une centaine d'années. Dans toutes ces situations, est-ce que la loi dans les tumeurs, les scléroses, tout ce que vous voulez, est-ce que c'est suffisant ? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, et là je parle en mon nom parce que je ne veux pas... c'est que cette loi, elle nous aide énormément. Elle nous aide soignants, hein. Quand je dis nous, c'est soignants, pour essayer d'avancer, d'être au plus près. Quelquefois, dans un couple, quand on interroge l'épouse ou l'époux sur son conjoint, eh bien, on n'a pas forcément le même avis. Ils n'ont pas forcément le même avis. Ils n'ont pas forcément la même attitude, les mêmes décisions. Comment voulez-vous que nous ayons des choses très tranchées ? Donc, cette loi, elle nous guide. Cette loi, elle est peut-être insuffisante, oui. Mais comme peut-être, c'est ce que disait notre collègue Denis-Marcel Venot, c'est-à-dire que peut-être, effectivement, il est confronté à des situations où il doit, pour des personnes même conscientes, se dire « j'aimerais bien qu'on soit plusieurs, quelquefois, à parler de ce cas-là ». C'est peut-être plus, non pas pour une décision, mais c'est pour un échange, parce que c'est cet échange qui est constructeur. Maintenant, qu'est-ce qu'il manquerait dans cette loi ? C'est à vous de nous le dire. Parce que nous, soignants, nous nous servons au quotidien de cette loi. Je parle vraiment sous le couvert là de mes collègues, mais elle nous rend de très, très grands services. Alors, quelquefois, on va être confronté à des gens qui vont effectivement nous dire « Mais moi, je veux mourir. » Je vois des collègues d'oncologie, des médecins d'oncologie qui sont au fond de la salle. Je suis sûr que cette loi, elle leur sert également tous les jours. Mais il y a des patients qui, effectivement, vont encore nous dire « Mais moi, je veux mourir. Je veux mourir. » Oui, c'est vrai. Ça arrive, c'est beaucoup moins fréquent que ce qu'on peut le dire dans les médias. Deuxièmement, quand ça arrive, c'est très fluctuant. Et ça a été dit, c'est le matin, je veux mourir, l'après-midi, non, ça va très bien, le lendemain matin, je veux remourir, et puis etc. Et là, sous des airs comme ça, où je dis les choses d'une façon banale, c'est toute la souffrance des gens. Je ne me moque pas d'eux. Enfin, pardonnez-moi, Simon. Mon attitude n'est pas en lien avec l'importance de cette souffrance. Mais il y a tellement de variations. Comment voulez-vous qu'on s'approche de tout cela ? Et combien de témoignages on a de gens qui nous disent « J'arrive dans le service de soins palliatifs, mais quelle horreur, c'est le mouroir, je vais mourir, c'est... » Voilà, etc. Et puis qui, en fin de compte, vont retrouver de la confiance, comme vous disiez, monsieur, qui vont retrouver des éléments pour s'accrocher à nous, ensemble, équipe, de voir jusqu'où on peut aller. Et quand il y a une telle demande d'euthanasie, etc., j'emploie le mot, même s'il n'est pas beaucoup prononcé, comment on l'accompagne, est-ce que, etc. Mais ces demandes, souvent, elles fondent. Et c'est très à la fois complexe et très simple, parce qu'il y a des gens qui nous demandent l'euthanasie, mais c'est des collègues qui en parlaient, et qui, nous disent dans la même journée, surtout, faites tout pour me faire vivre. Donc il y a tout ce paradoxe à gérer à la fois. Je pense que cette loi, en tout cas, elle nous éclaire sur ce chemin difficile qui est l'accompagnement.
Qu'est-ce qui peut aider un médecin généraliste qui est tout seul avec sa vieille patiente, qui depuis plusieurs années, plusieurs mois, est de plus en plus dépendante, qui a une DMLA, qui est très entourée par sa famille et par ses voisins, mais qui depuis plusieurs années manifeste le refus, le désir de rester chez elle, alors que de façon évidente, elle ne va pas pouvoir rester chez elle, et qui manifeste de façon réitérée le désir de mourir. Et le médecin généraliste, il est tout seul. Et la loi, là... Alors, la collégialité, là aussi.
Alors, il semblerait que je sois désigné, puisque étant donc intervenant à domicile, et donc travaillant donc au quotidien avec des collègues généralistes qui sont confrontés très fréquemment à ce type de situation... Ben moi, avant de dire la loi, je dirais la géographie. C'est très, je suis un petit peu gêné de dévoiler que tout dépend dans quel secteur de Poitou-Charentes de notre région vous exercez, si ce que vous relatez est une expérience professionnelle, puisque donc en l'occurrence dans le secteur dans lequel nous avons presque l'honneur de travailler, donc à savoir le département de la Charente, dans n'importe quel lieu de vie, de fin de vie, de lieu de soins, lieu d'hébergement, lieu d'accueil, puisque donc notre équipe intervient autant à domicile que dans les institutions médico-sociales personnes âgées, institutions médico-sociales handicap, que dans les établissements sanitaires du secteur. Donc vous voyez s'il y a des possibilités d'interlocuteurs sur de telles situations, et heureusement, parce que ce n'est pas simple, et même en s'y mettant à plusieurs, mais... Donc voilà, tout dépend déjà des ressources locales qui sont diverses et variées. Donc moi, j'ai le plaisir, l'honneur d'exercer dans un lieu plutôt privilégié. Je sais qu'il y a des secteurs beaucoup moins protégés. Et je vais tenter de reprendre un petit peu des questions en amont qui m'ont interpellé. Donc là, cette fameuse collégialité, moi je me disais, bon, ça va être vraiment une espèce de traficotage un petit peu de définition. Mais la collégialité, pour moi, c'est uniquement deux éléments, c'est le soigné et les soignants. Et après, si vous voulez, on prolonge la question, suffisamment de soignants pour que le soigné existe vraiment. Parce qu'en fait, même une personne donc compétente, juridiquement, compétente sur le plan cognitif, parce qu'on peut être compétent sur le plan juridique parce qu'on a simplement été épargné d'une évaluation qui montrerait qu'il vaudrait beaucoup mieux être protégé. Mais même si on est compétent juridiquement, même si on est compétent sur le plan cognitif, même si, ma foi, on est compétent par un affichage sous les socioprofessionnels, socioculturels, intellectuels des plus brillants, en attendant, dans la maladie, dans le handicap, dans la maladie, surtout quand il y a souvent ce cumul du handicap et de la maladie dans les affaires qu'on est en train d'évoquer ce soir, la personne, elle n'est plus fragile ontologiquement, fragile comme tous les humains, elle est fragilisée. Et donc, il faut s'y mettre à plusieurs avant que cette personne apparaisse véritablement. Moi, mon expérience professionnelle, ma petite expérience professionnelle, mes cheveux blancs montrent bien, j'ai dû les tirer, bien sûr, montrent bien que, voilà, j'ai eu quelques aventures professionnelles. Et je suis de plus en plus convaincu que seul, je ne peux que me fourvoyer, je vais inventer une personne. Donc la collégialité, oui, elle s'impose si l'on veut, en effet, que la personne soignée soit authentiquement prise en considération au-delà de... protocole, au-delà... À la limite, il ne suffit pas d'un médecin avec une maîtrise des protocoles et un humanisme. Pourtant, on se dirait, voilà le binôme qui s'est imposé. Non, ça ne suffit pas. Il faut des regards croisés. Il faut des intelligences combinées, quoi. Voilà, pour ce qui était de la collégialité, je dois fuir un petit peu votre question en même temps, mais on y reviendra sans doute, parce que je remonte un petit peu vers les sources donc de questionnement antérieur. Quel reproche faire à cette loi? Elle est parfaite? Non, elle a une tare intrinsèque. Elle n'est pas du tout respectée. Alors, est-ce une tare intrinsèque à cette loi ou est-ce une tare intrinsèque à notre organisation sociétale, sanitaire, presque policière? Puisqu'en fait, la situation, vous nous interpelliez sur quoi vous seriez tenté de critiquer cette loi. Donc notre exemple était dans ce sens, c'est-à-dire que comment se fait-il qu'un médecin seul puisse se laisser aveugler par de l'obstination déraisonnable? Non, ça n'est pas du tout choquant. Moi, ça ne me choque pas. Le praticien oncologue cité dans notre exemple est un collègue extrêmement compétent et évidemment humain. c'est mieux pour un médecin de, pour l'instant on n'a pas encore fait des robots, mais humaniste aussi, mais seul et donc n'acceptant pas d'en passer par cette fameuse collégialité qui paraît très encombrante, qui est en réalité très facilitatrice, à partir du moment où on accepte d'en passer par là. Donc ce collègue se retrouve dans l'obstination déraisonnable vraisemblablement. Hélas, l'exemple que l'on a montré est une démonstration, hélas, par les faits, parce que l'issue a bien... La progression de la maladie et l'inadaptation des réponses médicales qui ont été proposées montrent bien qu'on se fourvoyait sur le plan médical, parce qu'on n'acceptait pas d'en passer par un temps de collégialité. C'est un temps sacré, évidemment un sacré laïque, mais un temps sacré en un seul temps, en un seul moment, en un seul lieu. On accepte de la complexité et curieusement, on en dévoile des choses. Donc... Alors, je termine mon propos juste pour dire, voilà, ce qui manque à cette loi, c'est sa dimension coercitive qui, en fait, serait extrêmement bienveillante vis-à-vis des médecins. Vous pensiez que j'allais dire vis-à-vis des personnes soignées. Je pense qu'elle serait aussi bienveillante vis-à-vis des médecins pour ne pas les laisser dans la spirale décisionnelle qui est extrêmement éprouvante et qui mène à ce fameux syndrome d'épuisement extrêmement fréquent. Des analyses, des études le montrent bien dans le milieu hospitalier comme dans le milieu libéral.
Tout à l'heure, ça me taraude, c'est peut-être la complexité des soins à domicile. Cette collégialité est plus difficile quand on va dans l'unité de soins palliatifs ou au niveau de services comme l'oncologie. L'équipe qui change, hein, qui a un roulement, elle est présente. Voilà. Elle est là, on la voit, la famille, enfin, les bénévoles, tout le monde. Au niveau des soins à domicile qu'il faudrait développer, j'en suis vraiment convaincue, c'est la difficulté du lien avec le généraliste qui a été un médecin pendant peut-être 30, 40 ans auprès du malade, mais qui, au moment de la maladie, il y a une équipe de soins palliatifs qui arrive. Moi, je l'ai vécu pour mes propres parents. Ce généraliste s'est un peu reculé parce qu'il y avait une prise en charge autre. C'est cette difficulté de vous rencontrer peut-être plus facilement. Et... Non ? Alors, je ne sais pas.
Alors, à La Rochelle, on a fait le choix d'investir l'hospitalisation à domicile avec des médecins de soins palliatifs pour pouvoir aller à la rencontre des médecins traitants, parce que dans le cadre de l'hospitalisation à domicile, c'est le médecin traitant qui est le médecin référent du malade. Et cela nous permet d'être des référents hospitaliers qui vient les aider, qui ne prescrit pas à leur place, mais qui vient les aider, qui sont des référents de soins palliatifs, et qui les met en lien avec les référents hospitaliers qui ont eux-mêmes se sont occupés du parcours du malade. Alors c'est un choix que nous avons fait pour se mettre à disposition. Alors évidemment, on ne peut pas mettre tous les patients en hospitalisation à domicile. C'est pour ça que quelquefois, on a conscience de l'isolement et de la grande difficulté, de la difficulté d'être médecin généraliste. C'est un métier très difficile. Eh bien, de temps en temps, on propose à ces médecins de venir présenter leur dossier dans notre unité pour en discuter avec eux, parce que l'isolement est toujours très dangereux face à ces situations.
Deuxième salle, et je ne voudrais pas oublier les personnes qui assistent à la conférence au niveau du planétarium. Est-ce que des personnes dans la seconde salle ont des questions ou des observations à faire?
Je voulais juste répondre à madame qui parlait de cette personne âgée à domicile. Vous disiez, si j'ai bien compris, qu'elle demande à mourir depuis très longtemps. Et moi, j'avais envie de vous demander, que montre-t-elle au-delà de ces mots? Si ça fait si longtemps, que montre-t-elle? Est-ce qu'elle a encore du plaisir ou pas? Parce qu'on sent bien aussi au quotidien le décalage entre les mots. J'en ai assez, je suis un fardeau, je voudrais disparaître. Avec la même personne qui prend un grand plaisir à manger un petit chocolat. Alors, a-t-elle besoin de nous le dire? Je ne sais pas, je ne la connais pas, vous voyez, mais c'est cette interrogation. Et puis, ce que j'entendais aussi dans votre questionnement, c'est que la loi dit aussi qu'il faut soutenir les équipes à domicile. Donc voilà, comment on peut soutenir les professionnels? Comment on peut... Voilà, j'ai plutôt des questions par rapport à votre question.
C'est-à-dire que je trouve qu'on a parlé là beaucoup de patients
patients en fin de vie, de cancer généralisé, de choses comme ça. Mais le souhait d'en finir avec une vie qui est vraiment difficilement supportable et avec les perspectives qui sont parfois insupportables d'entrer en institution peut faire demander à des patients, à leur médecin traitant, et le médecin traitant, il est tout seul à entendre ça. Il est tout seul à dire non, parce que le médecin traitant, il ne peut pas dire oui. Et je ne suis pas du tout médecin traitant, je suis la nièce de cette patiente, et j'en ai beaucoup, je suis médecin, donc j'en ai beaucoup parlé avec le médecin en question, qui a été très troublé. Bon, voilà, la loi Leonetti n'envisage pas du tout ce genre de situation.
La loi Leonetti, elle nous donne des pistes quand même. Et alors voilà, effectivement, elle ne peut pas visiter toutes les situations. Sinon, ça serait une loi qui ferait 15 000 exemplaires. Par contre, et là, je reprends les propos de Madame Boisseau, de Catherine Boisseau, c'est que d'une part, vous savez, je vais vous faire une grande confidence. Figurez-vous que le directeur de l'hôpital du CHU de Poitiers nous a mis un téléphone. C'est-à-dire, je vais être méchant là, mais je vais aussi être gentil. Je vais essayer. C'est-à-dire qu'on est joignable. Nous n'allons pas au domicile. Sauf cas exceptionnel, notamment quand il s'agit d'enfants, parce que les enfants meurent à domicile bien souvent. Et pourquoi on ne va pas à domicile? C'est très simple, parce que je suis un grand feignant. Et nous sommes de grands feignants en soins palliatifs. Alors, on va parler, parce que pour faire de l'accompagnement, il faut du temps. Il faut quand même un peu de moyens pour aller au domicile. Si on n'a pas ces moyens, ce n'est pas la peine. Il faut mieux faire ce qu'on sait faire là où on est. Mais deuxièmement, par contre, et c'est ce que disait ma collègue, c'est vrai que moi je vois des collègues, des médecins généralistes qui viennent nous voir en disant « Nous sommes embêtés, on se pose en équipe avec ce médecin en disant « Où sont les problèmes ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on peut prendre cette personne en répit pendant 15 jours, 3 semaines pour permettre à la famille de se poser parce qu'on imagine que c'est lourd ?» Pendant cette hospitalisation, ça nous permet effectivement de solliciter la collégialité, d'avancer avec la famille, d'avancer. Voilà, c'est... Alors, j'essaye, là encore, je n'ai pas toutes les réponses et je vous prie de nous excuser, mais c'est ça, c'est vrai que la collégialité à domicile, et vous avez raison de le témoigner, c'est complexe. Bien souvent, les gens sont isolés, que ce soit le médecin, la famille, et c'est épouvantable d'entendre quelqu'un qui dit « je veux mourir », de façon répétée. Mais qu'est-ce qu'on peut vous apporter? Que dit la loi? Le répit. Effectivement, d'aller frapper aux portes, etc. Mais ça, nous, on ne peut pas deviner, par contre. On ne peut pas.
Est-ce que la seconde salle veut s'exprimer?
Apparemment, il n'y a personne pour les questions.
Juste une parenthèse, il y a aussi un réseau de gériatrie, quand même, sur la Vienne. Voilà, qui peuvent faire de la collégialité aussi.
Moi, j'avais une autre question. Il y a d'autres pays européens qui ont une réglementation différente de la nôtre. Je pense par exemple à la Belgique ou aux Pays-Bas, qui sont donc allés plus loin que la loi Leonetti. Est-ce que vous vous êtes déjà imaginé être un médecin belge ou une infirmière belge? Et comment vous positionneriez-vous en toute conscience en tant que professionnel de santé face à ce que permet la réglementation de ce pays?
Ce qui me vient spontanément à l'esprit dans ce que vous dites, c'est si la loi passait, est-ce que tout ce qui est légal est immoral? Voilà, ce serait la première question que je me poserais en tant que soignant, par rapport à mes valeurs éventuellement. Je ne m'imagine pas, et je dis je ne m'imagine pas par exemple organiser le transfert d'un patient dans un secteur où on lui prodiguerait une euthanasie. Je le dis très sincèrement, je ne m'imagine pas le faire. Et je parle en tant que soignant parce que je n'ai pas choisi le métier de soignant pour que quelqu'un d'autre me donne la place d'un bourreau. Voilà. Et j'assume mes propos. Voilà. Après, comment je ferai ? C'est plein de questions. Mais je n'ai pas choisi d'être soignant pour que quelqu'un d'autre m'assigne le rôle de donner la mort. J'ai choisi d'être soignant pour aider à vivre, même difficilement jusqu'à la fin. Et encore une fois, je dis « je » et je, ce n'est que « je ». Hein. Après, ce sont plein de questionnements, je crois. Mais merci de cette question.
Moi, je pense que la relation qui s'établit, je reviens à la relation soignant-soigné, mais elle est très importante. Elle s'établit sur un choix mutuel et sur cette confiance mutuelle. Elle est basée au départ sur cette notion de soin. Elle n'est jamais basée sur la notion de tuer ou de faire mourir la personne. Et là, la question qui se pose, c'est que plus on avance dans le temps et que cette relation, on essaie de trouver les meilleurs compromis, les meilleures situations pour notre patient, c'est eh bien, de se dire comment on peut changer la nature du contrat alors même qu'il devient le plus vulnérable. Eh bien, moi, je parle aussi comme moi, comme personne, je ne peux pas, en tant que soignant, changer la nature du contrat à ce moment-là.
Juste pour préciser, c'est qu'en Belgique, ils ont une loi sur l'euthanasie, mais ils n'ont pas de loi de fin de vie. Donc, il faut faire attention de ne pas extrapoler ce qui se passe en Belgique par rapport à ce qu'il y a en France. Mais il n'y a pas de loi de fin de vie. Donc, les deux systèmes sont différents. Ce qui occulte pas le débat sur l'euthanasie en France, bien entendu.
Alors, il s'impose peut-être que oui, chacune des équipes présentes là s'exprime à ce sujet. Alors, moi, il y a ce que je sais, ce que je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que non, même si l'euthanasie était un jour légalisée dans notre pays, je ne pratiquerai évidemment pas cet acte-là, qui pour moi représente en effet une transgression inconcevable. Par contre, je ne sais pas comment je me positionnerai, est-ce que je me permettrai d'entraver cette continuité de soins, si jamais une personne que l'on accompagnait, donc nous demander de l'aider, non point de contribuer, mais en tout cas de ne pas entraver le parcours vers la réalisation d'une euthanasie. Je ne sais pas, mais je me vois pas non plus entraver la loi. Je souhaiterais que la loi Leonetti soit rigoureusement respectée, et je sais qu'elle est affreusement négligée, particulièrement par le corps médical. C'est le Conseil national de l'ordre des médecins qui le dit. Hein, c'est pas, je suis pas un affreux délateur. Hein. Voilà. Et donc, ce que je sais aussi, c'est que les demandes de mort anticipée, il y a une étude qui a fait l'unanimité récemment dans notre pays, qui a montré qu'il s'agissait d'une demande extrêmement minoritaire. Hein, c'est de l'ordre. Alors on jongle un petit peu avec les pourcentages, mais on est dans quelques pourcents. Donc voilà, on va dire que grosso modo 3% de demandes de mort anticipée qui perdurent, hein, parce que comme on l'échangeait avant notre soirée, pendant notre petit temps de convivialité, les demandes de mort anticipée, bon, on en croise très très fréquemment, mais évidemment qui se désamorcent sans même d'ailleurs qu'on soit brillant, hein, sans même que nous on montre une humanité, une générosité, mais c'est simplement qu'elles répondent à un cri d'un moment, à une difficulté d'un temps donné. Voilà, donc les demandes de mort anticipée sont très rares. Moi, ça, je le sais. J'ai l'expérience pour le prononcer. Par contre, quand elles surviennent, là, je ne sais pas. Quand elles surviennent, qu'elles sont insistantes. Et je sais qu'il m'arrive de m'interroger terriblement sur des situations très, très rares. Notre équipe a croisé il y a peu de temps une situation où, en fait, ben oui, une fois de plus, la personne n'a pas demandé à être transférée en Belgique, n'a pas demandé à ce que quand même quelqu'un, qu'un médecin ait du courage ou une infirmière ait le courage de faire le geste qu'elle interdit, qu'elle souhaitait. Non, cette personne n'a absolument pas demandé. Curieusement, nous, on y a pensé. Parce que là, il s'agissait d'une situation où, malgré énormément de professionnalisme, dans le même service de l'oncologue cité dans l'exemple qu'on vous a relaté, cet oncologue s'employait à soulager cette personne. Il s'employait avec énormément de professionnalisme. Et je pense que tous les moyens mis à disposition pour soulager ces douleurs ont été développés. Et hélas, il y avait un échec de cet arsenal antalgique. Hein. C'est vrai que nous, à ce moment-là, on s'est questionner, mais questionner, vous voyez, pour rien. Donc, il y a ce qu'on sait, il y a ce que je sais, il y a ce que je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, Je me réfère à une, bon, une référence comme une autre, hein, une matinale de France Culture sur le thème de l'euthanasie en Belgique. Et moi, j'ai été traumatisé, donc je progresse par traumatisme, hein, comme tout un chacun. Et j'ai été traumatisé par deux propos de deux Belges, un qui, à un moment, a dit, mais voilà, l'euthanasie dans notre pays, mais enfin, voilà, ça fait de nous un pays simple et moderne. Ça, j'avoue que... Non, je vous rassure, hein, je vous assure, c'est vraiment tout à fait authentique. Hein, et donc, je pense que s'il était invité par les matinales de France Culture, c'est qu'a priori, c'est quelqu'un qui avait une parole d'une certaine qualité. Et puis, après, j'ai été traumatisé aussi par un autre témoignage d'un Belge aussi qui relatait l'euthanasie de sa sœur. Donc, toute la famille comprenait la demande et se disait, mais il faut l'entendre. Et puis, l'euthanasie s'est organisée. Elle a été programmée et donc le propos de cette personne, de ce frère, est devenu un petit peu avec une voix chargée d'émotion quand il a commencé à parler de voilà, on a su que c'était programmé dans 15 jours. Ça a été long et après son propos authentiquement, j'espère que je ne crois pas que ma mémoire pour une fois faille. Nous accompagnions notre sœur, nous la soutenions, on avait envie d'être complètement en accord avec elle. Et puis après, on s'est rendu compte qu'on avait assisté à une exécution. Ce ne sont que deux témoignages. Alors, vous voyez qu'ils sont à charge que d'un côté. Bon, voilà, c'est pas trop étonnant vu ma fonction. Mais moi, ils m'ont traumatisé un petit peu.
Alors, moi, je reviens à ma question. Vous appelez comment le fait de dire on n'alimente plus un malade et on le laisse dans sa souffrance et on lui donne de la morphine pendant, ça fait 3 semaines, ça va faire bientôt 1 mois, ça s'appelle comment? Alors, moi je pense moi personnellement et c'est ce que je pensais le long de la soirée, c'est que la loi Leonetti elle est beaucoup dans le soin palliatif mais pas dans le droit de mourir dignement. Peut-être. Et là, la question qui en est là, j'ai du mal à parler, je suis désolée. Eh bien, moi, je me dis, mais on ne veut pas d'euthanasie, mais on décide de ne plus alimenter quelqu'un, c'est-à-dire de le condamner à mourir. Donc.
Alors, je vous remercie d'avoir renouvelé votre question et. Je pense que je n'ai pas été suffisamment clair dans mon propos, mais si vous le souhaitez, je peux réitérer peut-être d'une autre façon. Figurez-vous que nous accompagnons les patients dignement, même si nous ne pratiquons pas d'euthanasie. J'espère être très clair dans mon propos. C'est douloureux, je crois, pour beaucoup d'entre nous soignants, d'entendre parler de cette dignité qui consisterait uniquement à opter pour la mort du patient lorsqu'il nous le demande. Madame, beaucoup de soignants sont peut-être dans cette salle. Je crois que nous faisons beaucoup pour la dignité des gens, peut-être différemment que ce que vous souhaiteriez. Arrêter une alimentation, ce n'est pas laisser quelqu'un mourir indignement. Peut-être qu'il n'y a pas eu suffisamment d'explications. Peut-être que cet arrêt a été fait pour le bien de votre frère, qu'elle a été faite transitoirement, etc., etc. Aujourd'hui, la recherche, les expériences des équipes, etc., sont très claires pour dire que l'arrêt d'une alimentation n'entraîne pas de souffrance, que l'arrêt de l'alimentation peut entraîner un confort, que l'arrêt de l'alimentation doit être accompagné d'un discours, d'un dialogue, d'un échange. Mais en tout cas, peut-être que votre question, c'est pourquoi cet arrêt, il serait tellement plus simple que d'injecter quelque chose? Ça va à l'encontre de ce que vous disiez à un instant. Vous voyez votre frère, ou votre, je ne sais plus, qui est resté 4 jours sans manger, etc. Mais peut-être, heureusement qu'on n'a pas fait un geste définitif pendant ces 4 jours. Et que l'imbécilité de ce médecin d'arrêter l'alimentation, qui vous a questionné, a-t-elle permis à votre frère d'être présent aujourd'hui? Parce que, ou d'un ami, pardonnez-moi. Bien. Ce que je veux dire, c'est que En tout cas, j'entends votre souffrance à vous dans ce questionnement.
Alors. En tout cas, je voudrais dire, en tout cas, en tant que soignante, moi, ce que je voulais dire, c'est que même s'il y a arrêt d'alimentation, arrêt de thérapeutique, il n'y a pas arrêt des soins. Ça, les soins continuent. L'attention continue. L'accompagnement continue. Les soins de confort aussi, oui, tout ça. Il n'y a pas arrêt des soins, en tout cas.
Oui, je me pose la question, pourquoi est-ce que la loi Leonetti est si peu appliquée? Quels sont les freins? Pourquoi on a l'impression qu'elle est appliquée, mais dans des zones très, très définies, dans les unités de soins palliatifs. Mais, et ailleurs, pourquoi est-ce que ça pose autant de problèmes de l'appliquer?
Alors, elle est en effet très très peu respectée, très très peu connue. Hein. Donc, une étude récente du CHU de Bordeaux a bien montré qu'il y avait une méconnaissance, bon, qui leur a semblé effarante, mais en même temps, ils étaient rassurés de savoir que le résultat était le même dans, bon, voilà, dans toutes les études menées, quels que soient les établissements. Alors, elle n'est pas connue. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a vraiment aucun vecteur, aucun support donc, d'information à ce sujet. Bah, c'est un petit peu troublant parce qu'il est très facile de se former. Je pense que là, les trois équipes pourraient témoigner que, je ne sais pas, moi, dans un mois à Ruffec, si ça se trouve dans trois jours à La Rochelle, dans six jours à Poitiers, voilà, n'importe quel professionnel de santé peut se former à la loi Leonetti et avec ensuite, en sortant de cette formation, avoir une bonne maîtrise, une bonne connaissance. Alors, ça veut dire qu'il y a peu d'appétence. Il y a bien peu de candidatures. Hein. Et ça veut dire aussi que la loi Leonetti n'a toujours pas été présentée, argumentaire à l'appui, exemple, autant qu'il en faut, au journal de 20 heures. Voilà, parce qu'il y a soit donc la formation professionnelle des professionnels qui se disent non, je ne peux pas en avoir entendu deux, trois trucs, l'obstination déraisonnable ou l'obstination déraisonnable. Oui, mais je peux vous promettre que quand on commence à creuser la question, donc, comme on l'évoquait avec notre exemple, là, quand on creuse la question, c'est drôlement complexe de définir l'obstination déraisonnable, y compris devant une personne en état végétatif chronique. Hein. Donc voilà, donc cette question-là, c'est aux responsables sanitaires et responsables politiques qu'il faut la poser, certainement pas aux professionnels de santé qui tentent autant bien que mal de diffuser hein, cette connaissance qu'à ceux qui la connaissent et qui la respectent et l'appliquent. Et pas plus d'ailleurs à ceux qui, curieusement, ne se sentent pas concernés alors qu'ils côtoient les enjeux de la loi très régulièrement. Donc en fait, c'est plutôt à vous que j'aurais envie de poser la question. C'est souvent comme ça que je termine un peu les formations en disant, mais au fait, oui, hein, donc vous soignants ou vous citoyens, comment ça se fait que vous ne connaissez pas la loi? Nul n'est censé l'ignorer. Alors, il y a des petites affaires de loi fiscale. Bon, on en entend un peu trop parler. Si on la connaissait un peu moins, ça irait peut-être pas plus mal dans notre pays. Mais cette loi-là, Fichtre, c'est quand même juste sur une des petites affaires de l'existence. Donc, citoyen français, je vous renvoie la question. Comment se fait-il, donc 2005, 2006, hein, donc réévalué 2008, comment se fait-il que l'on ne la connaisse toujours pas? Alors, donc, on va...
Moi, c'est effectivement, beaucoup de soignants dans les EHPAD, d'établissements ont eu une formation. Et malgré ça, effectivement, on voit que c'est toujours aussi difficile d'accompagner en fin de vie. Moi, je me pose la question si effectivement c'est si difficile de mettre appliquer les formations ou la connaissance qu'on a pu recevoir à un moment donné, c'est que ça demande peut-être aussi, un questionnement de soi-même pour ces soignants qui sont confrontés au quotidien et peut-être qu'il y a quelque chose autour de ça. Quand on doit accompagner, on a beau recevoir des formations théoriques à des petits moments de notre vie professionnelle, mais qu'en même temps, si on n'a pas régulièrement un questionnement sur soi-même, c'est difficile d'intégrer. Et c'est peut-être pour ça que c'est si difficile que ça soit, enfin, qu'on n'arrive pas à avancer assez rapidement avec cette loi. C'est que ben moi, je vois les limites dès qu'on n'est plus dans les unités de soins palliatifs, où là, les gens y vont par conviction, par désir. Enfin, y a un choix, et donc les gens ont forcément réfléchi sur cette question de l'accompagnement, alors que dans les autres services, il n'y a pas ce questionnement-là chez les soignantes. Ça leur est imposé. On leur dit qu'il faut faire avec cette loi-là, mais on ne les emmène pas à réfléchir là-dessus, quoi. Enfin, je sais pas.
Vous m'aidez à vous proposer comme hypothèse de réflexion deux éléments. Alors, elle est terriblement décevante, puisqu'en fait, elle est très peu indicative. Hein. C'est ce que donc le docteur Montaz expliquait. Heureusement, si vous voulez, c'est pas une approche totalitariste en disant, voilà, en ce qui concerne le docteur Denis Marcel Venot, voilà ce qu'il va rencontrer comme problème de santé, les questions qu'on devra se poser, les réponses que l'on devra lui proposer. Donc non, bien sûr, elle ne pose que des grands principes. Et puis, elle s'espérait terriblement dérangeante vis-à-vis de la toute-puissance médicale. Alors, bon, j'espère que je ne règle pas des comptes avec ma corporation, avec mon parcours professionnel, en introduisant quand même cette question-là. Elle est extrêmement dérangeante par rapport à la toute-puissance médicale, parce qu'elle s'est espérée une atteinte, une régularisation de la toute-puissance médicale, et tout compte fait, elle a bien peu de portée sur ce qui reste de paternalisme encore hein, dans notre corporation qui fait que que les soignants ils ont beau aussi se former, ils ont beau se torturer les méninges, si au niveau du corps médical il n'y a pas cette humilité, c'est ce qui est extrêmement dérangeant, c'est que devant la fin de vie, on a toutes nos ressources scientifiques, toutes nos ressources techniques sont la plupart du temps très peu compétentes, très peu conséquente, si on n'accepte pas cette humilité-là, on ne risque pas de rentrer dans l'esprit de la loi.
Moi, j'aurais voulu ajouter simplement que c'est vrai que la loi existe et qu'on essaie, nous, de la diffuser à travers des actions comme ça, mais elle est écrite, elle doit être connue, mais elle doit aussi être accompagnée par les soignants. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans une structure hospitalière ou pas, et qu'on ne vous explique pas ce qu'est une personne de confiance, à quoi elle va servir, quel est son objectif, quelle est sa place, qu'on ne vous explique pas ce que sont les directives anticipées, je ne pense pas que c'est en lisant le texte, même si vous êtes à même de connaître la loi, que vous allez pouvoir prendre des décisions qui sont adaptées à votre situation. Donc la particularité, probablement une des raisons pour laquelle elle est peu appliquée, c'est qu'elle est écrite, elle doit être connue, il y a cet effort-là à faire, mais aussi, elle doit être accompagnée par les soignants.
Moi, je voudrais pondérer un peu ce qui vient d'être dit sur la méconnaissance de la loi Leonetti. Je ne suis pas complètement d'accord. Ça progresse énormément. C'est-à-dire qu'il y a maintenant dans les facultés un enseignement d'éthique, dans les écoles d'infirmières un enseignement d'éthique. Il y a une étude qui montre que 90% des réanimateurs connaissent la loi Leonetti et pensent qu'elle est appliquée, et 80% des infirmières de réanimation qui ont la même vision. Donc il y a certains domaines, et en particulier les domaines où on est les plus confrontés avec la mort, qui fort heureusement ont assimilé et qui appliquent cette loi. Et vous êtes là pour en témoigner. Les unités de soins palliatifs sont les unités mobiles, donc qui aussi, et c'est ce que Géraldine vient de dire, ont un rôle de diffusion et d'enseignement et de transmission de cette loi. Donc, OK, on peut encore faire mieux, et il faut faire mieux, et il y a encore des manques à combler, et c'est notre mission, mais je trouve qu'on commence à progresser, et la méconnaissance de cette loi, je crois qu'il faut arrêter de dire ça. On progresse, on avance, c'est pas parfait, mais je pense que ça commence à venir.
Alors, je prolonge un petit peu, parce que correction qui s'imposait, alors moi là, c'est surtout pas sur mon petit témoignage, hein, enfin le témoignage de la petite échelle de notre équipe, c'est sur toutes les études récentes, CHU de Bordeaux, grosse étude du CHU de Bordeaux, et puis d'autres enquêtes. Donc en effet, le secteur de la réanimation, le secteur des soins palliatifs, bien heureusement, connaissance de la loi. Par contre, dans les autres secteurs, méconnaissance grave, validé par le Conseil de l'Ordre des médecins, qui ne flagelle pas si facilement que ça la corporation concernée. Donc, en effet, correction qui s'imposait. Les services de réanimation, oui, je pense qu'il y a une excellente connaissance et un grand respect de la loi Leonetti. Les unités de soins palliatifs, tout autant, dans les autres dispositifs des soins palliatifs dans notre pays, si on pense au lit identifié de soins palliatifs, n'allons pas penser que même sur ce secteur qui devrait être privilégié, il y ait une grande connaissance de la loi Leonetti. Mon propos ne se veut pas catastrophiste, je me réfère qu'à des données, je dirais, quasi scientifiques. Mais correction qui s'imposait pour les services de réanimation et les services de soins palliatifs.
Juste pour compléter, je pense qu'il y a encore une méconnaissance du grand public, de nos concitoyens. Et je crois que c'est là que c'est important. Et comme vous dites, c'est une loi sur la fin de vie qu'il faudrait faire vivre. Et pour ça, peut-être aussi que ce n'est pas un sujet très porteur. Les personnes qui s'intéressent à ce sujet sont en général soit des professionnels, soit des personnes qui ont vécu des situations où ils ont été confrontés à la fin de vie. Donc, j'ai peut-être vous choquer, mais je crois que les médias préfèrent nous raconter et nous montrer des situations sur le plan où on va mettre en avant les émotions suscitées par des situations épouvantables et qui sont réellement difficiles, que de nous faire réfléchir et donner une information sur ce qu'est la loi Leonetti. Je n'ai jamais entendu sur aucune chaîne de télévision à une heure de grande écoute qu'on nous ait parlé de la loi Leonetti. Donc je crois que pourquoi est-ce qu'elle n'est pas connue, c'est encore un sujet tabou. Et puis voilà, quelle est la place qu'on laisse aussi à l'interrogation. Je crois que les professionnels de santé, on y travaille, ça progresse, mais même si nul n'est censé ignorer la loi, je crois que nos concitoyens ne la connaissent pas. Voilà. Mais on n'en parle pas aux 20 heures. Et ça ne nous fait pas pleurer dans la soupe.
S'investir davantage dans l'information et la sensibilisation du public comme on le fait pour n'importe quelle pathologie. Hein, je crois que c'est exactement ça. Ce qui me fait dire ça, c'est que je me présente, hein, je fais partie de l'association Jeanne Malve, et notre fédération s'est impliquée avec le ministère de la Santé pour faire un petit film à propos de témoignages de gens. Et donc, en fait, ça a été labellisé par le ministère de la Santé. Tout ça pour dire, eh ben oui, aidez-nous à faire de l'information. C'est ce que nous faisons à petite échelle. Là, enfin, on fait ce qu'on peut. Mais effectivement, c'est l'affaire de, pas seulement des associations, de nous tous, mais c'est aussi... Enfin, je repense à la réflexion qui a été faite quand même à la fédération, c'est-à-dire, ben nous, ça nous sert, quoi. C'est-à-dire, ce film a été réalisé, pas avec les sous du ministère, hein, mais avec des sous privés, etc. Et bon, mais l'important, c'est que ça a été réalisé et qu'on peut continuer et on continue à diffuser ce DVD auprès du public, même partout où on peut. Voilà. Donc, je voulais rajouter que, et Catherine Boisseau l'a déjà souligné, c'est vrai qu'on est tous concernés par la fin de vie, tout citoyen est concerné, et c'est vrai que c'est tellement délicat qu'à la fois, eh bien, on repousse ça, ou au contraire, on se dit, si je suis très malade, je vais mourir. Donc, en fait, le débat risque d'être passionné si on n'informe pas davantage les concitoyens, hein, effectivement. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est l'association Jeanne Malve, hein, si vous voulez des informations. Non pas que je fais de la pub pour notre association, mais par rapport au petit film qui a été réalisé et que nous pouvons passer dans les quartiers. Voilà.
Je voudrais répondre à la question sur si j'étais belge. D'abord, je ne suis pas. Voilà. Deuxièmement, je crois que la Belgique est une démocratie et qu'elle n'oblige pas les médecins à faire ce qu'ils ne souhaitent pas. Et que si j'étais belge, je crois qu'en fonction de mes convictions, eh bien, je ferais ou je ne ferais pas. Et je crois que la France ressemble étrangement à la Belgique, et donc avec cette permission de faire en fonction de nos propres convictions. La deuxième chose, je reviens à votre remarque sur les EHPAD, qui me paraît vraiment très judicieuse, parce que l'accompagnement et vous le témoignez, quelqu'un d'autre l'a témoigné, la nièce de cette personne qui est en souffrance à domicile. Quand on est tout seul, c'est très très compliqué. Personne ne peut faire du soin palliatif seul, c'est impossible. La loi, si elle parle de collégialité, c'est parce qu'elle a bien compris qu'effectivement, seul, on ne peut rien. On ne peut rien pour redonner de l'être. Qu'est-ce qu'ils nous disent ces patients qui veulent mourir ? Je ne suis plus rien. Écoutez le cas qui a été rapporté par Catherine et Nadine. Je suis en train de pourrir, je ne suis plus rien. Et quand les gens veulent mourir, souvent, c'est qu'ils veulent... Je n'existe plus, je ne suis rien. Et à nous, effectivement, de les reconnaître. De les reconnaître. Et deuxièmement, en EHPAD, je trouve que c'est un secteur très difficile. Parce que là aussi, on pourrait parler toute la soirée de la collégialité, etc., des décisions. Vous avez beaucoup de mérite de travailler en EHPAD. Hein. Alors, pas toutes les EHPAD, hein, mais c'est pareil. Sur la soixantaine d'EHPAD du département, il y en a peut-être plus, hein, pardonnez-moi, très peu viennent quelquefois, alors tant mieux, hein, parce que comme ça, ouf, voilà, mais nous interpellent pour des situations délicates. Certaines, oui. Par contre, l'hôpital propose des formations. Il y a eu des formations qui sont proposées effectivement aux différents professionnels des EHPAD pendant plusieurs jours sur l'hôpital de Poitiers au CHU pour effectivement eh bien, évoquer toutes ces situations et que les équipes ne soient pas seules. Voilà. Merci beaucoup.
Parce qu'ils n'ont pas encore perçu le bénéfice que c'est de ce partage, parce qu'on partage des connaissances, mais on partage le poids.
Bien, je pense que la MEDES France a ses impératifs et nous devons clore ce débat. Comme nous avons de la peine à assumer et à anticiper notre propre mort, comme nous avons de la peine à faire entrer la mort dans notre vie. Mais il faut savoir que ce comportement d'évacuation de la mort est un comportement qui est issu de la modernité, c'est-à-dire qu'il est issu des progrès considérables de la médecine depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les progrès ont été tels, l'allongement de vie a été tel, que la médecine ne s'est déclinée qu'en termes de puissance. Et paradoxalement, au moment même où la médecine devenait puissante, elle a réalisé l'océan de ce qu'il restait à faire. Alors, au début, les malades qui échappaient aux soins curatifs ont été abandonnés. C'est de cela qu'est née l'angoisse de mourir, angoisse d'autant plus forte que la mort avait déserté les demeures familiales pour devenir une mort institutionnelle. Et là encore, c'est un visage de la modernité. Et paradoxalement, au moment même où on a soigné de mieux en mieux, eh bien, on s'est posé la question du comment mourir, à tel point qu'on a même oublié que le sujet qui chemine vers la mort est notre frère et que c'est un vivant, car nous sommes tous dans ce cheminement. Alors, de ce qui a été dit ce soir, on peut retenir quand même un certain nombre de lignes forces. La première ligne, c'est cette intelligence plurielle à laquelle que le docteur Marcel Venot a introduit, qui a été relayé dans la salle sous le terme de collégialité. Oui, travaillons à la collégialité. Et ce travail de collégialité n'est pas seulement un remède à l'isolement du médecin, il est un remède à l'isolement du malade. Car dans les situations que l'on décrit, en EHPAD ou à domicile, ce dont on souffre essentiellement, c'est de l'isolement. Or, les études modernes de neurosciences ont montré que les sujets qui sont en situation d'isolement et d'exclusion sociale activent les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. Notre société n'a pas encore bien pris la mesure de cela. C'est que le remède essentiel quand on a parlé d'accompagnement et qu'on a fait de l'accompagnement, alors même qu'on n'en avait pas compris tous les enjeux, c'est de lutter contre cette souffrance intolérable qui est l'exclusion et la solitude. Au fond, notre société a besoin de recréer du lien dans les équipes de soins jusqu'au domicile, recréer du lien aussi entre la personne malade, la personne âgée, non malade, et la société. Nous avons évoqué aussi, bien sûr, à travers la loi Leonetti, assez longuement, le problème de l'alimentation. Il est dommage qu'il y ait des équivoques à ce sujet, car l'alimentation a beaucoup torturé les médecins. Et la question a été posée de savoir, est-ce qu'on peut vraiment suspendre ce qui serait un besoin biologique fondamental? Et puis, les études ont montré qu'en fait, on se projetait dans cette situation. Attention, dans la mort des autres, c'est notre propre mort que nous voyons. Et ce qu'elle est insupportable, c'est ce que nous croyons ne pas devoir être obligés de vivre. Alors oui, les médecins spécialistes l'ont dit, la loi Leonetti ne dit pas ce qu'il faut faire, elle dit ce qu'il est possible de faire. Et toute application mécanique de la loi est bien sûr une erreur. Alors effectivement, si l'alimentation est un besoin, elle doit être satisfaite. Mais si l'alimentation ne sert à rien, si elle aggrave le malade, alors aujourd'hui, il y a un consensus. Mais bien sûr, on sentait aussi à travers les questions, au fond, cette loi Leonetti, est-ce qu'elle ne va pas faire une mort à petit feu? Est-ce que ce n'est pas une culture palliative par défaut? Mais ce serait une loi Leonetti mal comprise. Parce que cette loi Leonetti, il faut savoir qu'aujourd'hui, non seulement elle a été votée par la quasi-totalité du Parlement français, ce qui n'arrivera pas à la prochaine législation. Mais il faut dire aussi que les pays qui ont légiféré très vite sur l'euthanasie, car ils n'avaient pas de loi de fin de vie, comme l'a dit le professeur René Robert, eh bien ces pays-là sont en train de copier la loi Leonetti après nous, parce que bien sûr, elle est inscrite dans l'humain, elle est inscrite dans l'accompagnement, elle est inscrite dans le respect de l'autonomie du malade, mais elle est compliquée, bien sûr, elle est insuffisante, j'allais dire heureusement. Comment peut-on penser qu'en 3 coups de cuillère à peau, on aurait résolu tous les problèmes? Elle donne un cadre, elle ouvre à la créativité. Nous avons parlé de la personne de confiance, bien entendu, avec ses ambiguïtés, ses difficultés. Beaucoup d'entre vous, sans doute, ont pu être opérés de choses bénignes et on leur a demandé, désignez-vous une personne de confiance. Ce serait intéressant de savoir combien de personnes ont dit oui, c'est un tel, ou combien de personnes ont dit non, je ne l'ai pas désigné. Et puis, la personne préposée à l'hôpital ou à la clinique a rangé le papier, ayant accompli ce travail, puisque la question avait été posée. Mais pire sont encore les directives anticipées. Bien sûr, c'est un rêve que l'homme soit l'auteur de sa vie, que l'homme maîtrise sa vie jusqu'au bout. Et donc, il écrive ce qui doit advenir quand, par hasard, il ne pourra plus s'exprimer. Mais quelle garantie a-t-il cet homme? Quelle garantie a-t-il qu'au moment de ses instants ultimes, il sera en accord avec ce qu'il a dit plusieurs années auparavant? Alors oui, le débat sociétal est à peine engagé. Le comité d'éthique a dit « parlons des directives anticipées ». Et voyez-vous, le sentiment que l'on ressent en écoutant une salle et en écoutant aussi son silence, c'est que nous sommes impréparés. Nous sommes impréparés à une modification trop rapide de la loi, parce qu'en fait, nous avons parlé d'euthanasie, mais la loi ne prévoit pas d'euthanasie. Ceux qui serait en discussion, c'est donner à quelqu'un les moyens de mourir. C'est-à-dire lui mettre les comprimés sur la table de nuit.
et qu'ils les prennent seuls. Il faut qu'ils soient conscients, il faut qu'ils soient autonomes. Oui, mais alors, l'exemple belge et néerlandais nous montre que si une telle proposition était faite, elle en appellerait d'autres. Parce que si le sujet ne peut pas prendre ses comprimés, il faut bien lui mettre dans la bouche. Et à ce moment-là, nous passons du suicide médicalement assisté à l'euthanasie. Si les députés, les sénateurs ne le prévoient pas, mais alors cela appellera une nouvelle loi. Il ne faut pas qu'on puisse croire qu'une seule disposition pourra résoudre les points. Mais qu'est-ce qu'on fera des enfants ? La Belgique légifère aujourd'hui sur les enfants. Qu'est-ce qu'on fera des malades d'Alzheimer ? Alors, nul ne sait ce qu'il faut faire. Et puis, la responsabilité n'est pas la nôtre. Elle est celle de ceux que nous avons élus et qui décideront. Mais il y a, je crois, un moment unique de faire entendre une parole citoyenne, une parole qui dise peut-être, non pas des certitudes, comme nous en entendons trop, mais des doutes, des hésitations. Et le temps est peut-être venu de suspendre son déroulement pour que les débats sociétaux s'approfondissent, pour que nous puissions avoir des réunions où nous puissions aller encore plus loin, parler plus vrai de la mort, des derniers instants, entrer dans le sujet. À l'espace éthique régional, nous avons consacré une journée au mois de septembre à parler de la mort. Et à la fin de cette journée, certains ont dit combien ça leur avait fait du bien d'avoir apprivoisé la mort après avoir entendu s'exprimer des médecins, des philosophes, des infirmières, un historien des religions, etc. Et que ce concept, peu à peu, était entré, était apprivoisé. Alors, la balle est maintenant entre les mains de ceux qui nous gouvernent, mais en réalité, le problème n'est pas politique. Le problème est un débat de société. Nous avons peut-être l'impression qu'il ne faut pas se précipiter, qu'il faut laisser le débat s'approfondir, qu'il faut permettre l'hésitation. Bergson avait dit « conscience » signifie « hésitation » et « choix ». Mais le moment crucial de la conscience est bien celui où nous nous reconnaissons humbles, hésitants, tant il est difficile de savoir comment faire pour bien faire. Je vous demanderai en partant, pour tous ceux qui le souhaitent, de bien vouloir mettre quelques mots sur les feuilles qui vous ont été dites à votre gré. Ça peut être n'importe quoi, mais nous en avons besoin pour essayer de transmettre le plus fidèlement possible le pouls de notre société poitevine. Je vous remercie d'être venu. Je vous souhaite une bonne soirée.